Comment l'entraînement croisé peut-il nous permettre d'optimiser notre préparation et limiter nos blessures? C'est le sujet de ma discussion passionnante avec Laure cette semaine. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider encore plus à progresser. Avec Laure, nous vous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et le sujet du jour, c'est la suite, finalement, de l'épisode de la Minute Perf de la semaine dernière sur l'optimisation du plan d'entraînement. Depuis début janvier, nous avons balayé avec Laure les éléments pour mieux nous entraîner, préparer un marathon ou un autre défi et optimiser cette préparation. Nous sommes donc dans la suite de cette optimisation et notamment via l'entraînement croisé. Car on parle beaucoup de l'entraînement croisé, mais finalement, c'est quoi l'entraînement croisé? Que faut-il faire pour qu'il nous serve à quelque chose? Et finalement, quelles sont les conditions pour que l'entraînement dans un sport serve à notre sport principal, par exemple? Et nous finissons aussi cet épisode en parlant du repos, de la récupération, mais aussi de la question épineuse du matériel. Je dis épineuse parce que c'est un point sur lequel nous ne sommes pas entièrement d'accord avec Laure. Nous ferons des épisodes spécifiques sur le sujet, mais déjà on a amorcé un bout de la discussion. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais d'abord une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Laure.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Eh bien écoute, je vais très très bien et toi?
Ça va bien, écoute, moi ce matin je me suis fait un petit SMI pour valider mon challenge Paris 2024, donc je suis content, tu vois, j'enregistrerai l'épisode de demain, parce qu'on enregistre mardi, je le dis comme ça, et je suis tout prêt, et en fait je me dis maintenant j'ai plus qu'à discuter avec toi, tu vas m'apprendre plein de trucs et ça va finir en beauté ma journée.
Ah, toi. T'as bien de la chance, parce que moi j'aurais bien aimé aller courir aujourd'hui, mais je vais pas pouvoir y aller. Alors, t'as bien de la chance. C'est jusqu'à quand le challenge de Paris 2024?
Alors, le challenge et les challenges en eux-mêmes, il y en a plein. Mais cette semaine, jusqu'à la fin de la semaine, alors quand cet épisode sera diffusé, ça sera trop tard. Ça se finit le 31, je crois. Quoique, oh, peut-être pas, oui, à quelques jours près. Ouais. En fait, y a un challenge, il faut faire un semi-marathon et il y a 24 dossards qui sont mis en jeu. Il faut tout de suite courir un semi-marathon. Alors, il suffit, il y a quand même... un petit enjeu. Moi, ce matin, il s'est pas très bien passé. En fait, c'était lent et tout. Au bout d'une heure, j'en avais un petit peu marre. Mais j'ai dit, bon, allez, pour finir, pour le game et tout, pour que ce soit passé, ça va passer. Et c'est tout le défi, tout le challenge, ce joli truc, là, pour essayer d'avoir un dossard pour Paris 2024.
Hein, on va tous y être. C'est tellement beau. C'est tellement beau.
Bah oui. Hein, à défaut d'y être, en tant qu'invité élite et tout, dans le sas de départ où il y a les champions, nous, on sera dans le marathon pour tous. On va tout faire en tout cas. Et pour ceux qui sont intéressés, parce que j'ai des gens qui ne savent pas trop comment ça marche, dans le Hamster Zoning Club, j'ai mis des informations sur le sujet, comment ça marche, on peut partager les challenges, les points, etc. Donc je le dis, je fais une petite annonce comme ça pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas les applications et qui ne savent pas encore comment gagner le dossard. Voilà.
Ouais, bon. C'est cool parce que même moi, tu m'apprends un truc, tu vois. Merci Bertrand.
Bah ouais, puis toi, en courant tous les jours, normalement, t'aurais ta chance. Hein. Enfin, franchement.
Ouais, il faudrait que je me renseigne. On en rediscutera. Bon, bah moi, je voudrais faire une petite intro.
Hein. Ouais,
je
vas-y, fais ton intro.
Un mea culpa, en fait. Parce que j'ai réécouté l'épisode sur lequel on va prendre appui aujourd'hui. Et tu avais complètement raison, Bertrand. Je tenais à le dire. Je tenais à m'excuser auprès de tout le monde. Que je pense que tu avais raison, on aurait pu faire un épisode complet sur l'entraînement croisé, tout comme on aurait pu faire un épisode complet pour chacun des facteurs de la performance. Et donc, je pense que quelque part, ça peut être intéressant, parce que ça peut permettre à chacun de se rendre compte un petit peu de la complémentarité de l'ensemble au global, d'un point de vue rapide. Mais vraiment, on vous invite à nous poser vos questions et à peut-être, on devrait peut-être essayer de faire un sondage. Peut-être sur Instagram, tu vois, ou pour voir quel serait le facteur qui serait le plus important à traiter le plus rapidement possible. Alors, on va traiter l'alimentation au quotidien. Mais je pense qu'il y aurait d'autres facteurs. Et en réécoutant l'épisode, je me dis que la question de l'alimentation pendant l'effort, on pourrait y consacrer sans doute plus de temps, y être envisagé beaucoup plus de cas. Et donc, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas. D'ailleurs, on va répondre peut-être à une question qui nous a été posée, Bertrand.
Et oui, alors j'ai une question de Jérôme. Alors, pour l'anecdote, Jérôme, je l'ai eu en invité du podcast. Et Jérôme, bon, il a écouté la Minute Perf, tu vois. Il était très attentif, il a tout écouté. Et en fait, il prépare le marathon de Paris, il vise 3h20 et il se pose une question sur l'hydratation. Et en fait, il dit, voilà, il va sans assistance sur les ravitaux. Donc, il ne peut pas utiliser ton astuce qui disait, bon, il faudra avoir ses propres bidons, etc., de l'assistance, etc. Et il dit que lui, il ne veut pas y aller avec un camelback, mais il se pose la question de savoir en fait comment il va. Et en fait, il se dit, je vais prendre une ceinture, je vais mettre une flasque de 500 ml dans la ceinture, et dedans, en fait, il va se dire, ben, il va mettre, qu'est-ce qu'il va mettre? De la boisson. Quelle boisson il pourrait mettre dans la flasque, tu vois? Et à côté de ça, prendre des gobelets ou des bouteilles d'eau sur les ravitaux. Alors, c'est une stratégie que moi j'avais fait en fait, de mettre la flasque comme ça aussi dans la ceinture. J'étais un peu étonné de voir des gens courir avec des camelbacks sur le marathon de Paris parce qu'il y a un ravito tous les 5 km à peu près. Par contre, c'est vrai que quand on veut amener sa propre boisson, ses propres trucs, la stratégie de dire sur le marathon de Paris, faire ce que tu disais, d'avoir son assistance sauf si vraiment on est un champion et qu'on part en sas élite, c'est juste impossible. Alors comment on répond à Jérôme?
Alors, pour moi, il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau, on va rester dans le fait que de toute façon, il fait le marathon de Paris et donc on accepte cette idée. Et puis le deuxième niveau, c'est qu'on envisagera autre chose. Dans le cas du marathon de Paris, effectivement, c'est très particulier, comme les marathons de capitales européennes ou mondiales. Hein, d'ailleurs, c'est des marathons dans lesquels il y a beaucoup de monde, il y a du monde partout sur le parcours et c'est extrêmement compliqué de se faire ravitailler. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée de prendre une ceinture. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à toute possibilité. Mais moi, je vois beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages au fait de prendre une ceinture et ou un camelback. Parce qu'en fait, il faut quand même se dire que pendant les 42 km, eh ben, on va porter ce poids en plus. Alors, peut-être pas tout le temps, parce que la flasque, elle va être plus ou moins remplie selon les moments. Malgré tout, moi, je pense quand même que à 3h20, moi, je sais ce que c'est, puisque j'ai fait mon marathon, mon premier marathon 3h22, donc je sais exactement ce que c'est que cette allure. Clairement, c'est pas une allure à laquelle on a envie de porter quelque chose de plus. Alors, je pense que tout le monde est dans ce cas-là, mais c'est déjà des allures où ça va vite. Donc, plus ça va vite, plus malgré tout, il y a des secousses, plus voilà. Et moi, c'est vraiment pas un conseil que je donne de partir chargé avec quelques ceintures que ce soit. Hein. Moi, je pense qu'il faut vraiment partir en short et en t-shirt. Et même d'ailleurs, bon, on pourra en reparler hein, de l'équipement selon les conditions météo et tout, mais être le plus léger possible au final, être le plus proche possible aussi des conditions d'entraînement. Clairement, une ceinture, ça pose moins de soucis chez les hommes que chez les femmes au regard de la morphologie du bassin notamment, parce que nous on a les hanches qui sont beaucoup plus creusées, donc on a la ceinture qui va avoir tendance à remonter, contrairement à vous les hommes, mais donc ça pose moins de soucis, mais malgré tout pour moi ça pose un énorme souci, c'est le souci du poids et c'est le souci de la gêne occasionnée par la ceinture en elle-même. Et moi je pense que l'un dans l'autre, il vaut mieux accepter l'idée que on va prendre des ravitaux tout en essayant d'anticiper un maximum le ravitaillement, c'est-à-dire rien n'empêche de se renseigner, je pense que c'est des informations qui sont faciles à avoir, sur les partenaires boissons qui auront au marathon. Il y a des marques hein, qui sponsorisent des marathons, et donc on saura que c'est telle boisson d'effort qui sera donnée sur le marathon. Donc du coup, l'idée, c'est de le tester à l'entraînement. Donc ça peut être un premier truc intéressant. Le deuxième truc, c'est si jamais la boisson d'effort qui est sur le marathon ne nous convient pas, on peut tout à fait envisager de prendre un ou deux gels dans sa poche, et auquel cas, des gels que l'on tolère. J'en ai pas parlé dans l'alimentation dans le dernier épisode, parce que je suis pas archi fan des gels. Je pense que c'est des produits qui sont ultra transformés et qui sont difficiles à digérer, mais malgré tout, il y a des gens qui les digèrent, hein, sinon ça n'existerait plus. Et donc, je pense qu'un bon entre-deux, ça peut être ça. Ça peut être de prendre un gel, parce que ça pèse rien, un gel, on peut en mettre dans des poches, on peut en prendre 4-5 même. On a maintenant, les shorts sont quand même super bien faits avec des poches et tout. Et l'idée, c'est d'avoir une gorgée de gel et de prendre des gobelets d'eau. Comme ça, on limite vraiment la casse, parce qu'en fait, du coup, on sait exactement le produit qu'on ingère. On a l'apport de glucose par le gel, et derrière, on a de l'eau, du ravito normal, voilà. Alors, après, il y a aussi un autre truc. Moi, j'ai dit que c'était pas top, mais il y a souvent sur des ravitaux, il y a souvent du coca, souvent des boissons sucrées. Moi, je suis pas pour, parce que je trouve que ça apporte du gaz, ça alourdit plus le ventre qu'autre chose. Malgré tout, à nouveau, il y a des personnes qui le tolèrent hyper bien, le coca, et dans des moments de glycémie un peu plus faible, j'avais expliqué ma petite fringale une fois, bah, ça peut être pas mal. Alors, donc, je pense que la stratégie, je trouve que le bon compromis que j'apporterais, c'est ça. C'est l'idée de dire, on prend des gels sur soi, qu'on tolère bien, et on le prend jamais seul, le gel, on le prend avec de l'eau. Donc, comme il y a des ravitaux tous les 5 km, on prendra de l'eau et on prendra le gel tous les 5 km. Et la deuxième, alors ce qu'on peut envisager, c'est un premier gobelet qu'on attrape, on boit, machin, on prend juste de l'eau. Ensuite, on reprend un deuxième gobelet parce que souvent les tables de ravito sont assez longues justement sur ces grands marathons. Et cette fois, c'est le gobelet qui sert à prendre le gel. Comme ça, il y a deux types. Il y a vraiment l'hydratation et derrière, entre guillemets, l'alimentation. Maintenant, on va considérer qu'en fait, si on veut faire une perf, eh ben, on n'en a pas parlé dans les facteurs d'accès à la performance, mais moi, c'est le truc que je dis toujours aux personnes que j'encadre. Le premier truc que je leur dis, c'est de choisir en fait, les événements, de choisir les courses qu'elles veulent faire. Et je pense que dans le choix de la course, et c'est moi d'ailleurs, hein, c'est des choses que je dis hein, toujours, c'est dans le choix de la course, il faut tout prendre en compte. Il faut prendre en compte effectivement l'expérience personnelle, parce que vivre le marathon de Paris, bah, c'est juste incroyable, parce que c'est quand même notre capitale, on voit des monuments qu'on peut jamais voir, enfin je l'ai pas fait mais je pense que ça doit être vraiment dingue, ça reste un marathon mythique aussi, il y a un effet un peu de mode, bon voilà, tout ça cumulé c'est une expérience je pense humaine incroyable. Après je pense que c'est pas forcément la meilleure expérience d'un point de vue de la performance et c'est pas forcément le meilleur choix d'un point de vue de la performance et moi je pense que si on veut faire un marathon pour faire un temps, ben, faut pas réfléchir sur un critère entre guillemets d'expérience humaine ou voilà, il faut réfléchir pour moi sur deux aspects majeurs. Le premier, ben, c'est le dénivelé global du marathon. Moi, quand j'ai fait mon premier marathon, je regardais un marathon plutôt plat. Alors moi, j'ai couru à Annecy, et c'est très plat. On est au bord du lac. Après, aussi des marathons à taille humaine, dans lesquels justement on peut envisager cette stratégie de ravitaillement, et c'est pour ça que j'en ai parlé, parce que justement, plus le marathon, enfin, plus il est à taille humaine, moins il y a de monde, et plus c'est possible de se faire ravitailler. Et alors après, il y a aussi le parcours du marathon en lui-même, je vois le parcours du marathon d'Annecy, il est sympa parce que c'est un aller-retour, donc pour les gens qui nous encadrent, bah, c'est relativement simple de nous suivre, d'aller sur la piste cyclable. J'avais anticipé le fait de faire le marathon de Nevers, j'avais regardé, c'est pas mal non plus, parce qu'en fait, le marathon fait des petites boucles. Et du coup, sur quelqu'un qui pourrait suivre, faire l'assistance, il pourrait prendre un vélo et se déplacer en vélo sur un périmètre qui serait pas très grand et voir plein de fois la personne qui court. Donc moi, je trouve que c'est... Voilà, si je devais apporter une réponse globale, une réponse la plus holistique, la plus exhaustive possible, pardon, ça serait de dire, bon, bah, considérons qu'on est sur le marathon de Paris et il y a cette stratégie-là des gels avec l'eau, mais dans l'absolu, quand on veut faire une performance, eh ben, en fait, je pense qu'il faut déjà se poser la question de où est-ce que je cours et pourquoi j'y cours. Voilà, ça c'est la réponse que j'apporterais, je sais pas ce que t'en penses Bertrand.
Oui, alors après, bon, il faut préciser que le marathon de Paris est sold out. Hein, vous pouvez plus acheter vos billets si maintenant, si jamais vous vouliez acheter un dossard, c'est fini. J'ai pas vu comment ils avaient bloqué le nombre d'inscriptions, mais bref. Et je pense qu'il y a quand même un avantage sur un marathon de cette taille-là comme Paris. C'est d'une part qu'il y a des meneurs d'allure dans pas mal d'allures et par pas mal de gens, ça peut être intéressant. Et qu'en fait, on n'est jamais seul. Et parce que je vais te dire un truc, c'est qu'un marathon à taille humaine, j'ai une copine de club à qui c'est arrivé. Elle a couru le marathon, je crois que c'est de Guignon, un truc comme ça. Et dans le genre là, tu vois, à peu près, hein, qui est pas très loin. Et elle s'est retrouvée pendant presque 20 kilomètres, voire plus, je crois, toute seule. En fait, parce qu'il y a peu de concurrents. Et qu'elle finit, je crois, deuxième ou troisième. Donc, tu vois, donc il y avait, c'était pas un niveau extrêmement relevé, mais par contre, il y avait plus de gens qui étaient derrière elle et tout. Et en fait, elle s'est retrouvée très rapidement toute seule. Et ce qui fait que, bah, on se retrouvait toute seule sur une allure qui est pas facile à tenir et tout. C'était quand même pas si évident que ça. Alors que sur un marathon qui est plus peuplé, j'ai envie de dire, comme le marathon de Paris, mais je pense que Nevers fait partie des marathons qui sont plus peuplés aussi et tout.
On trouve sur Internet, hein. Il y a des sites qui classent par nombre de participants et tout. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ton analyse globale du truc. Après, moi, je vois par exemple Annecy, c'est pas un gros marathon. Moi, je fais 3h22 pour une femme, c'est pas non plus. C'est pareil. Il y a des moments où j'étais pas seule. Mais effectivement, j'avais pas forcément toujours quelqu'un avec qui courir, ça c'est clair. Après, il y a encore autre chose qu'il faut intégrer aussi, c'est les formats de course. Parce que par exemple, à Annecy, moi quand je l'ai fait, à l'époque, il y avait aussi l'histoire du relais. Donc en fait, à l'aller, j'étais avec des gens, et au retour, j'étais avec d'autres gens, parce que c'était des gens qui venaient de prendre le relais en fait. Donc c'était assez sympa, parce qu'au final, c'était des gens qui étaient plus frais, donc qui allaient donner un tempo différent aussi. Donc voilà, il y a une autre ambiance. Voilà, donc c'est assez intéressant et effectivement, mais ça prouve bien une nouvelle fois que La performance, ça s'interroge dans sa globalité et je pense que c'est une bonne transition pour notre, pour la suite de notre épisode, Bertrand.
Ouais, et puis ça montre aussi que finalement, un marathon n'est pas un marathon. Enfin, c'est-à-dire que la distance est commune entre tous les marathons. On en avait parlé beaucoup avec le marathon de, avec le marathon de New York, d'Audrey et Fabien, en rappelant que là, c'est vraiment pas un marathon pour faire une performance. Tu vas vraiment pour autre chose, mais que pour la performance, c'est vraiment pas le marathon comme ça. Que pourtant, tous les marathons ont la même distance, mais que comparer son temps entre les différents marathons, c'est vraiment pas un truc évident. Et que, y a plein de choses qui jouent, et que c'est vrai que dans le choix du marathon, après, il y a ceux qui veulent faire du tourisme, hein, ceux qui veulent faire les grandes capitales, les grands marathons, etc. Il y a plein d'arguments qui vont jouer dedans.
Ouais, puis tout est bien, en fait. C'est ça qui est cool. C'est qu'au final, c'est ça le sport, quoi. C'est qu'on a tous des objectifs différents, et même une même personne, c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'une même personne peut avoir... pour la même discipline, plusieurs objectifs avec le marathon. Alors que c'est pas le cas quand on va faire un 1500, on va faire un 1500, voilà. Mais on va rarement faire un 1500 pour visiter une ville. Mais ouais. C'est ça qui est bien avec le marathon, c'est qu'on peut tout à la fois avoir un objectif de perf sur certains marathons et tout à la fois courir certains marathons aussi juste pour le plaisir. Moi, j'ai des amis qui font ça, hein, qui font les capitales européennes en marathon, quoi. Et il y a des fois où ils font juste des perfs et c'est cool, quoi. Je trouve ça génial. Donc voilà.
Ouais, on a fait un épisode sur ce sujet, notamment, je me rappelle, avec Tintin Runner, qui lui faisait aussi tous les marathons festifs, Beaujolais, toutes les côtes du...
C'est autre chose encore après, là.
C'est encore autre chose. Mais c'est encore une autre manière de vivre, en fait, un petit peu le marathon. Et puis, d'ailleurs, j'en avais rigolé, parce qu'on a fait un épisode avec, bah, avec Marie-Caroline Savelief, qui, le deuxième épisode de Sport Nutrition qu'on a fait avec elle, où elle a dit qu'elle a fait le marathon du Beaujolais, mais avec un, à la fois le
déguisement.
Côté un peu compétitif, le côté déguisement,
ouais,
mais...
Tout en regardant le déguisement, ouais.
Tout en rappelant quand même qu'elle est championne de France de steeple dans son domaine, dans sa catégorie d'âge. Donc, c'est quelqu'un qui galope et qui, je crois, court le marathon en 3 heures, quelque chose dans ce genre-là. Donc, il y a quand même un petit peu, qui est toujours un peu titillé, un peu aussi de se dire, par moment, on va accélérer, on va faire la fête, etc. On a toutes ces notions-là. Mais bon, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai que c'était intéressant de parler de ça. Alors, tu sais, par rapport à notre petit plan, on doit aborder plusieurs trucs, mais on a une autre question. Et ce que je te propose, on va inverser le point 4 et le point 5. On ferait une réponse plus complète à Marie-Laura sur l'histoire précise, des choses comme ça, mais en fait, elle a une question sur l'entraînement croisé. Et parce que elle parlait justement, elle nous a envoyé un message, et je le dis, hein, sur, alors, le message est long, et donc on va pas en parler, je vais pas donner le message entièrement, mais en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'elle voit les bénéfices en fait de la natation sur le gainage, sur la respiration, sur des choses comme ça, mais que dans le même temps, en fait, comme elle a un grand passé de nageuse, eh ben, elle est un petit peu titillée aussi par son passé de nageuse, de ce qu'elle faisait à une époque, et elle se demande, en fait, finalement, sa question, c'est un petit peu de se dire sur quoi elle se focalise quand on fait de l'entraînement croisé. C'est-à-dire que est-ce qu'elle se focalise un petit peu sur ce qu'elle connaissait en natation, en pure natation, alors que maintenant, elle court, qu'elle nage et qu'elle peut faire d'autres sports? Ou est-ce que finalement, quand on fait de l'entraînement croisé, on va revenir sur l'entraînement croisé, mais sur quoi est-ce qu'on se focalise sur l'entraînement croisé?
Alors, je pense que là, il faut qu'on donne des définitions de deux choses. Il faut qu'on distingue l'entraînement croisé du transfert de compétences. Pour moi, c'est deux choses différentes. Là, pour moi, la question, elle porte davantage sur le en quoi et comment des compétences développées dans une activité peuvent me servir dans une autre. Alors, ce qui est un peu la base de l'entraînement croisé, mais on est sur... relativement autre chose dans le sens où on est sur quelque chose de beaucoup plus sur le long terme, contrairement à l'entraînement croisé où l'idée c'est d'avoir un impact sur la physiologie de l'organisme à un moment donné par la diversité des activités. Donc je vais quand même prendre le temps de distinguer les deux parce que ça me semble important. Pour moi, le transfert de compétences, c'est vraiment le fait qu'à un moment donné de ma vie, je vais développer des aptitudes physiques dans un domaine d'activité donné. Je vais être performant dans un domaine et derrière je vais pouvoir le transférer. Alors on a un bon exemple en France et qui est hallucinant cet exemple, c'est Florent Manaudou entre la natation et le hand qui avait fait une coupure à un moment donné et qui avait joué je crois en Pro D2 ou en Pro D1, je ne sais même plus, en hand avec un gros club. Bon, ça prouve bien que clairement il n'y a pas beaucoup de lien entre la natation et le hand, mais ça prouve une chose, tu fais la moue, mais non, il n'y a pas beaucoup de choses, surtout lui, il est sprinteur. Il est sprinteur en natation, il est sur de la création d'appui dans un milieu avec de la résistance et il est absolument pas dans une activité perceptive décisionnelle comme le hand au départ et il est absolument pas dans une logique plutôt aérobie avec des accélérations. Non, je t'assure, vraiment, le transfert entre les deux, il est pas ouf. Par contre, Par contre.
Non, mais c'est qu'en fait, j'avais une taquinerie. C'était sur le fait que le hand et la natation, c'est un petit peu le même truc. Je fonce dans l'art, quoi. C'est-à-dire que je pense que le hand est un sport qui fait partie des sports.
Non, je peux
qui
pas,
ne...
je peux pas.
Non, mais
Je peux
attends,
pas t'entendre
non,
dire ça.
je vais,
La
je...
prise de décision et
Je suis
d'information en
d'accord.
hand, elle est monstrueuse. C'est-à-dire, il faut quand même prendre en compte l'ensemble de nos partenaires et l'ensemble des adversaires. Donc, tu vois le nombre de possibilités décisionnelles? Non, c'est à
Oui,
ce
mais en face,
niveau-là.
t'as un mec, t'as un ballon, t'as un mec, tu fonces dans
Alors,
le truc.
la chance et le transfert qui s'est opéré avec Florent Manoudou, je pense, c'est son physique. C'est-à-dire que je crois qu'il fait plus de 2 mètres. Il a une envergure aussi de plus de 2 mètres 10 des bras. Donc, il avait une musculature et une ossature et une morphologie qui faisait que c'était deux morphotypes qui pouvaient fonctionner dans les deux sports. Après, je pense qu'il y avait vraiment des habiletés à construire. Donc, on voit bien que le transfert de compétences, on est sur comment une activité A peut me permettre de performer dans une activité B. OK. Sauf que dans ce cadre-là, il faut bien envisager le fait que le développement des ressources, il n'est plus dans la complémentarité, il est dans la juxtaposition. C'est l'un puis l'autre. L'entraînement croisé, pour moi, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin dans le sens où on va chercher à créer de la complémentarité et de la juxtaposition, en fait. C'est-à-dire, on va non plus simplement faire succéder les choses, mais se faire juxtaposer les choses entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'entraînement croisé, le but, c'est de mobiliser un même système de ressources dans deux sports différents. Alors que là, le transfert de compétences, on voit bien qu'on peut passer d'un type de ressources à un autre type de ressources. Voilà. Et je trouve qu'il y a une nuance. L'entraînement croisé, le but, c'est vraiment ça. C'est vraiment dans quelle mesure je peux optimiser le fonctionnement d'une ressource en allant piocher dans plusieurs sports différents. Parce que finalement, notre corps fonctionne notamment sur des temporalités, c'est le temps qui fait tout, hein. Surtout nous, sur les efforts qui sont les nôtres. Parce que je l'ai expliqué, il y a des activités dans lesquelles la technique, la perception, la réflexion, le mental sont bien plus prédominants. On ne pourrait pas fonctionner de la même manière en tennis, c'est-à-dire on ne pourrait pas envisager un entraînement croisé de manière aussi intéressante, tennis demi-fond que triathlon demi-fond. Parce que on n'est pas sur le même système de ressources à 200%. On voit bien qu'en tennis, on va avoir des habiletés perceptives, décisionnelles, mentales à prendre en compte de manière ultra importante. Je dis ça dans le même temps qu'il y a un super match à l'Open d'Australie et que je loupe à cause de cet enregistrement. Mais je dis ça comme ça.
Écoutez, on va allumer un petit cierge comme ça,
Ouais,
là
bah
devant, tous comme
oui.
ça, pour remercier l'or de nous.
Il y a
C'est
Diot
quoi ce match
Tsitsipas qui
d'ailleurs? C'est quoi
joue.
ce match?
Et Tsitsipas contre le petit jeune, le petit tchèque, là, j'arrive pas à prononcer son
D'accord.
nom.
Bon, tout le monde connaîtra le résultat quand cet épisode sera passé.
Eh oui, mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que l'entraînement croisé, le but, c'est vraiment non pas d'interroger, entre guillemets, au départ les activités, mais d'interroger quel type de ressources on veut mobiliser. C'est ça l'idée.
Je comprends l'idée.
Donc, nous, en ce qui concerne les activités, activités dites aérobie, de course, voilà, de tout ce qu'on pratique ici dans le podcast. L'idée, c'est quoi? On veut développer le système aérobie. Et on peut le développer en capacité, en puissance, on en a parlé. Moi, j'expliquais dans le plan marathon que ça me paraît très intéressant de faire de la capacité aérobie grâce à l'entraînement croisé. Parce qu'en fait, c'est facile de faire de la capacité aérobie dans d'autres sports. On peut en faire en natation, en vélo, en marche rapide, en ski de fond. On peut en faire dans plein, plein, plein d'activités. Et l'avantage, pourquoi une des raisons, parce qu'on peut se poser aussi cette question, la première question à se poser, c'est pour quelles raisons au pluriel l'entraînement croisé est intéressant? Bah, la première chose, c'est qu'en fait, c'est déjà pour limiter les blessures. La première réponse, c'est que la course à pied, c'est hyper traumatisant, on le sait, hein. On sait que les différentes phases de la foulée, on a une phase, bien sûr, d'envol, mais on a une phase d'amortissement dans laquelle en fait on va subir un poids énorme dû à la vitesse. Et donc on sait très bien que ce type d'activité entraîne des micro-traumatismes, voire parfois des micro-fissures, Le plus souvent, ça reste microscopique, ça reste totalement inaperçu, ça se répare parce que oui, on a un système de réparation des os, des muscles, encore tout ça, on ne va pas rentrer en détail. Mais parfois, quand la charge est trop importante, et c'est là où la blessure arrive, eh bien, en fait, on n'arrive plus à récupérer. Donc, pourquoi la course à pied conduit à de la blessure ? Ça conduit à de la blessure, un, parce qu'il y a des chocs, c'est clair. Deux, parce que c'est une activité qui est ultra répétitive, parce qu'en fait, on va avoir sans cesse globalement la même motricité. Et là, je tiens à faire une petite insiste parce que moi j'ai vu la différence entre deux périodes de ma vie. La première période où je courais beaucoup en forêt et aujourd'hui où je cours beaucoup plus sur du plat autour du lac à Vichy. Et en fait, je me suis rendu compte que eh ben, dans cette période où je courais beaucoup plus en forêt, donc j'avais des foulées qui étaient différentes, j'avais des appuis qui étaient différents, j'avais des dénivelés qui étaient différents, et eh ben je me blessais quasiment pas. Les seules sources de blessures que je pouvais avoir, c'était des entorses en forêt parce que ça arrive sur une pierre, etc. Mais en fait, aujourd'hui, depuis que je cours tous les jours sur un terrain ultra plat, j'ai la même motricité, donc j'ai aussi la même foulée, la même cadence, tout ça. Et en fait, je me rends compte que ça produit bien plus de fatigue musculaire, tendineuse, etc. Alors, je suis peut-être plus vieille aussi, mais ça joue pas. Je pense que
j'osais pas te le dire.
À l'histoire de 5 ans, ça joue pas non plus. Mais et donc j'ai réintégré. Et donc, attends, là, il y a quand même une suite. J'ai réintégré dans mes entraînements deux sorties par semaine entre guillemets en altitude où je fais 200 à 300 mètres de dénivelé. Je fais des sorties avec 300 mètres de dénivelé.
C'est vrai, c'est une blague parce qu'il y a une petite tour et tout, il y a de quoi monter.
C'est pas
il y a de quoi...
300 de D+ sur une heure.
Je suis d'accord, c'est une bonne sortie, je suis d'accord avec toi.
Et au final, je me rends compte que ça change tout. Parce que ça, dans ces sorties-là, bah, en fait, la foulée en montée, elle n'est pas la même qu'en descente, l'allure, elle n'est pas la même, bref, rien n'est pareil et ça limite énormément. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà considérer, c'est là la question, c'est là où je voulais en venir en fait, que de courir sur des terrains différents, c'est déjà de l'entraînement croisé. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que rien que le fait de changer sa motricité de course, son allure de course et les dénivelés éventuels, ça soit déjà de l'entraînement croisé parce qu'on induit, en fait, une nouvelle motricité. Et moi, j'ai envie de dire que oui. Alors, il n'y a rien là-dessus. Hein. J'ai cherché, il n'y a strictement aucune publication sur l'entraînement croisé au sein d'un même sport. Mais j'en suis persuadée, c'est-à-dire que mes connaissances scientifiques globales et l'expérience que j'ai pu mener, c'est quand je croise tout ça, je me persuade que c'est une forme de micro-entraînement croisé. Parce qu'en fait, il faut aussi revoir les choses avec beaucoup plus de globalité, c'est pas blanc ou noir, c'est toujours une histoire de spectre au final. Mmh. Et le spectre, là, en l'occurrence, c'est pas il y a un sport ou un autre. Quand je fais du VTT ou du vélo de route, c'est pareil, je pense qu'on n'est pas du tout sur la même activité. Et par exemple, on peut voir un gars comme Mathieu Van Der Poel qui fait beaucoup de choses. Il fait du cyclo, il fait du VTT, il fait du vélo de route. Et finalement, il fait des belles saisons et il arrive à durer dans la saison. Et en fait, on se rend compte de quoi ? Bah, c'est que c'est des positions différentes, c'est des efforts différents, c'est des intensités aussi différentes. Et moi, je suis convaincue qu'au sein d'un même sport, on peut, alors peut-être pas parler d'entraînement croisé, mais on va dire c'est de la nuance dans l'entraînement, quoi. Et donc voilà. Donc j'avais envie de parler de ça aussi pour cette raison, parce que la première raison à faire de l'entraînement croisé, c'est la blessure. Et ce qui conduit à la blessure, c'est la répétition trop importante sur une ou plusieurs parties du corps à un moment donné, quoi. Donc ça, c'est la première raison.
Je peux dire un truc quand même parce que ça me fait penser au... tu connais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'entraînement Myocross Max de Eric Lacroix, où il y a du renforcement musculaire en fait. C'est qu'il a vraiment dans les entraînements de course, et notamment sur de la course rapide, sur de la côte, etc., la fatigue du muscle, il y a vraiment cette idée en fait de mettre du renforcement musculaire dans les séances de course. Là aussi finalement ça paraît de la course, un entraînement de course, mais finalement c'est déjà un croisement entre différentes techniques, c'est-à-dire qu'il t'allait chercher des trucs. Et j'avais fait un épisode avec Sébastien Cornette, mais qui est parti dans les archives du monde, de mon disque dur qui est mort, où lui il fait faire des squats, il fait faire des soulevés de barres, il fait faire tout un tas de choses comme ça, où là c'est vraiment très clairement identifié, où tu dis ben tiens je vais faire de la muscu, je vais faire du gainage, du renforcement, et puis je vais faire de la course. Mais c'est vrai que dans un type d'entraînement comme les séances myocross qu'on peut voir, mais même, c'est vrai, tu as raison, les séances de côte pures et dures, finalement, c'est une forme aussi d'entraînement croisé en soi, finalement, parce qu'on va développer d'autres éléments, finalement, et d'autres manières de courir qui vont bénéficier à notre pratique globale.
Et on revient toujours à la définition même de l'entraînement croisé, à savoir c'est l'utilisation de plusieurs modalités de sollicitation de l'organisme pour mobiliser des ressources identiques. Donc on en est bien exactement à la même chose. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, ça se fait de plus en plus. Hein, maintenant, ces footing un peu, on va dire, un peu rando ou... un peu avec du renforcement musculaire et tout. C'est vrai que quand on a des parcs avec, par exemple, des trucs de santé et tout, des parcours de santé, moi, ça m'arrive hein, d'aller faire les petites pompes, les trucs. Et au final, effectivement, déjà, il y a un côté très ludique. Mmh. Et puis, effectivement, on va réajouter. Alors après, là, pour moi, on sort un peu de l'entraînement croisé pour la simple et bonne raison qu'on va venir développer d'autres ressources. C'est-à-dire que quand je vais faire des pompes dans mon footing, je vais davantage développer des qualités d'explosivité et de force, et je vais plus tant développer des capacités aérobies, quoi. Donc, l'entraînement croisé, ça sert aussi quand même à ça. Ça sert aussi, bien sûr, à travailler la même ressource, mais aussi à développer d'autres ressources. Parce que on sait très bien que notre organisme, il va aussi faire du transfert d'une ressource à l'autre. Alors, oui et non. Parfois, dans le sens où on sait que quand on a des fibres rapides dans un muscle, ça va à l'encontre du fait d'avoir des fibres lentes. On sait aujourd'hui que c'est un prorata et on ne peut pas en fait, avoir les deux. C'est-à-dire en fait, il y a des fibres qui se transforment au final. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que si jamais je veux développer de la puissance, eh ben, il est clair que faire de l'entraînement croisé qui croiserait puissance et aérobie, eh ben, ça conduirait, entre guillemets, à annuler un peu des efforts de l'un et de l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des morphotypes très particuliers chez certains sportifs, parce qu'on ne peut pas avoir... parce que chaque sport est associé à un morphotype. Et donc, l'entraînement croisé peut potentiellement venir, s'il est mal fait, s'il est mal mis en place, entre guillemets, inhiber la performance, freiner la performance. Par exemple, un athlète, je ne sais pas, un athlète de 3000 ou steeple ou de 5000, 10000, il ne faudrait pas qu'il fasse, qu'il soulève beaucoup, beaucoup de charges trop souvent à l'entraînement. Parce que le poids de corps intervient énormément dans la performance. Donc, on voit bien que entraînement croisé ne dit pas, en fait, s'entraîner plusieurs fois dans la semaine des sports différents. Entraînement croisé, c'est vraiment cette idée que comment je peux contribuer au développement des ressources nécessaires à ma performance par d'autres moyens. C'est vraiment ça qu'il faut obtenir. Et c'est là où on voit que les formes de pratique sont aussi à interroger. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai dit, bah oui, tiens, si on fait du vélo, on va pouvoir développer des qualités aérobies. Ouais, sauf que si on fait du vélo à fond, avec des gros braquets, etc., on va davantage développer à nouveau de la puissance musculaire et on va pas tant développer les capacités aérobies. Donc voilà. Et d'ailleurs, je parlais de Mathieu Van Der Poel, mais je pense que c'est un bon exemple. C'est un coureur qui est très atypique au niveau du morphotype. Il fait partie plutôt des plus trapus, des plus puissants. Et c'est sans doute pour la raison qu'on a évoquée, parce que lui, il fait des formes de vélo qui sont très différentes. Je le vois pas sur la piste, mais pas loin, quoi. Enfin, quand même pas. Mais je sais pas,
peut-être qu'il en a fait dans sa vie, non ? J'en sais rien.
Il est ultra puissant. Il est ultra puissant.
Non, il a fait du cyclocross. VTT, cyclisme sur route. J'ai pas sa liste, en fait. Je sais pas s'il a fait. Alors, peut-être qu'il en a fait parce qu'ils sont formés aussi un petit peu à plein de choses quand ils sont jeunes et tout. Puis avec la famille.
Ça veut pas dire qu'il fait pas des séances de piste, tu vois. Ouais. Ça veut pas dire ça. Mais après, de là à faire des compètes, je pense que c'est autre chose. C'est encore.
Et c'est vrai, tu sais, ça me fait rire parce que l'autre jour, j'ai vu une vidéo de François Pervis que j'avais eue dans Sport et Nutrition. Et François Pervis, faut le rappeler, c'est peut-être un mec qui a eu 100 médailles différentes sur piste et sur tous les formats de piste, du Kérin et compagnie. Et il a fait les cyclocross, je crois que c'est les départementaux de cyclocross. Et il s'est moqué de lui-même parce qu'il a tombé toutes les petites barrières qu'il y a au milieu là, pour faire des obstacles. Et il a eu un article dans le journal disant, mais que venait faire le musculeux François Pervis dans cette discipline de cyclocross? Ou alors, il avait vraiment pas le physique des autres à côté. Et c'est vrai, parce que on empêche qu'il a beau être sur un vélo comme peut l'être Van Der Poel, comme peuvent l'être plein d'autres, quand on regarde le physique et quand on se rappelle de ce qu'il travaillait, et quand on regarde ses entraînements, il est 100% que sur la puissance. Et donc quand il dit « je vais faire de la route, mais pas trop », c'est exactement ça. Alors je mettrai le lien, parce que c'est un épisode de Sport Nutrition, où il expliquait que justement, il faisait pas trop de route, justement, qu'il faisait beaucoup de musculation, parce que lui, il développait des grosses cuisses, une grosse puissance. Puis alors, faut voir, hein, il y a des vidéos, on le voit dans une chambre d'hôtel, où il fait des accélérations pendant 10 secondes à fond, avec des braquets qui sont énormes, on a l'impression que le vélo va s'envoler, tellement il appuie fort dessus. Mais où il disait que il allait pas faire non plus des très grandes sorties énormes, parce que justement, ça allait contre, et que d'ailleurs, il avait dû faire un choix à un moment dans sa carrière de dire je ne dois pas faire trop de route pour arriver à être champion sur piste, tout simplement parce que il ne développait pas les mêmes filières, il ne développait pas les mêmes muscles, et ça illustre exactement ce que tu viens de dire.
Bon, merci Bertrand, c'est cool.
Ouais, puis tu vois, c'est un champion du monde qui te le. Enfin, c'est vrai, tu vois, sur le coup, maintenant que tu le dis, mais ça me semble logique, cette histoire entre la puissance, entre les choses comme ça et tout. Mais c'est bien de le rappeler quand même, dire que c'est même dans la course, il y a différentes manières de courir, entre ceux qui courent en travaillent la puissance, la résistance,
Exactement.
Etc.
Exactement.
Dans le vélo, c'est pareil, et dans plein de sports, y compris d'ailleurs en musculation, parce que si on fait des séances. Si on soulève du poids léger pendant longtemps ou si on soulève beaucoup de poids lourd sur un court temps, on ne travaille pas non plus les mêmes trucs. Donc ça veut dire que dans le choix de son activité, il y a un choix, mais aussi dans l'activité, comment on la pratique.
C'est toujours la question des filières énergétiques, au final. c'est toujours cette histoire-là. C'est que selon le temps d'effort et l'intensité de l'effort, on aura une sollicitation sur l'organisme qui sera particulière. Donc voilà, mais je te remercie parce qu'effectivement, c'est toujours mieux avec un bon exemple, en fait. C'est toujours mieux avec un bon exemple. Et puis, je trouve que ça redonne un peu de réalisme à ce qu'on raconte, parce que c'est vrai que quand on parle de tout ça, ça peut paraître très théorique. Et puis, ça peut aussi faire peur en se disant « Ah, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse pour machin ?» Mais au final, voilà. Et on va évoquer un dernier... Alors, qui dit entraînement croisé, pour moi, dit aussi récupération. Alors, ça enchaînera sur un autre facteur, parce que ça fait partie des facteurs, la récupération, mais l'entraînement croisé permet aussi de récupérer. C'est-à-dire que dans le même temps qu'on va solliciter l'organisme différemment, et bien en fait, on va permettre à l'organisme de récupérer sur des aspects physiques, musculaires, neurotendineux, etc., qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait continué une séance, par exemple, en athlé. Donc l'avantage de l'entraînement croisé, c'est que ça permet de récupérer. Moi, je pense que, en fait, l'avantage de l'entraînement croisé au global, ça permet d'avoir du volume et de maintenir un entraînement sur le long terme. Je pense que c'est vraiment ça la spécificité de l'entraînement croisé, selon moi. C'est que je pense qu'on dure plus. Alors, et au total, quand tu dis, toi, devenir un vieillard galopant, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que je suis persuadée que plus on avance dans l'âge, et plus cette alternance des différents types d'activités est importante. Parce que notre corps a besoin de plus récupérer pour un même niveau de sollicitation à un moment donné. Et je crois beaucoup à ça, en fait. Je crois beaucoup à cette idée de la complémentarité et de l'alternance. Et moi, de toute façon, je pense que notre corps a besoin d'équilibre. Je pense que notre corps a besoin de jamais rien en excès, que ce soit en termes de privation ou en termes d'abondance. Et plus on va être dans la mesure pour tout, et mieux ce sera. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est ce qui nous conduira à la meilleure santé, mais peut-être que si on aurait fait autrement, ça aurait été pire. J'aime bien cette phrase de penser ça.
Ouais. Tu sais, ça me fait rire parce que ce matin, j'écoutais un livre audio, un résumé d'un livre audio de la semaine de 4 heures. C'est Tim Ferriss qui a écrit la semaine de 4 heures. Il avait fait un livre sur le body, le corps de 4 heures, en fait. Comment construire un corps d'athlète en 4 heures avec une promesse de perdre du gras, prendre du muscle en faisant, parce que 4 heures de sport par mois. Alors, pas 4 heures par semaine et 4 heures par mois.
Et en fait. 4 heures par mois?
Oui, 4 heures par mois. Il y a un entraînement.
C'est un peu ce que disait le docteur machin, faire 4 minutes de HIIT tous les jours, ça veut dire.
Et en fait, il dit, il commence son livre en disant, faut se rappeler qu'en fait, il y a une juste mesure. C'est-à-dire que le corps a besoin d'une juste mesure pour progresser et qu'à partir d'un certain stade, ça ne sert à rien d'en mettre énormément plus parce qu'en fait, on peut provoquer les blessures, la fatigue, etc. Mais qu'il faut trouver à quel moment, quelle est la juste mesure qu'on doit mettre pour progresser. Et le livre, j'ai rigolé parce qu'il y a quand même des trucs dans le livre. Je me dis, c'est vraiment un Américain sur le marketing, etc. Il y a quand même enfin, franchement, tu ne peux pas tout appliquer. Tout qu'en plus, la juste mesure avec Tim Ferriss, qu'il faut se rappeler quand même, consomme des drogues, etc. Et puis, il dit qu'on peut consommer des drogues parce que ce n'est pas si mal que ça. Il y avait une juste mesure qui était quand même un peu juste dans certains cas, c'était qu'à le dire. Mais par contre, cette petite phrase était intéressante. C'est vrai de dire qu'il faut trouver le bon niveau. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où l'excès ne sert à rien parce qu'il ne permettra pas justement de progresser et qu'il faut trouver quelle est la limite finalement de progrès et que des fois elle est pas facile à trouver. Et d'ailleurs bah, tous ceux qui sont dans le surentraînement, tous les sujets qu'on a pu faire sur le surentraînement etc. prouvent que justement c'est une limite qui doit se tester et qui n'est pas simple à trouver et je vous alors non, je vous renvoie sur un autre podcast
données,
d'ailleurs
hein. Il y a des données là-dessus
tu vois sur le Let's Trail Podcast vient de faire publier j'aime bien Let's Trail Podcast il a fait un débat entre Sébastien Cornette et Cascade Verte. Et les deux, justement, sont en opposition sur les thématiques, on a l'impression, et en disant, Cascade Verte, il court 25 bandes par jour. Sébastien Cornette, il a un livre, c'est « Courir moins pour courir mieux ». Et on a l'impression qu'ils sont totalement opposés. Et en fait, il y a une grande partie du débat repose justement sur cette limite, sur de savoir comment tu progresses, quel est le moment que tu arrives à progresser. Et alors, je vous laisse écouter, je mettrai un lien pour ceux qui sont intéressés, parce que c'est un épisode qui est très intéressant, mais qui montre justement aussi qu'il y a des approches différentes, que dans certains sports, il y a peut-être des variations, notamment dans le trail, on peut se poser des questions sur certaines variations, et que on n'est pas tous fait pareil aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux dans ce truc-là. Et c'est ça qui est aussi intéressant sur penser que ce qu'on voit, ce que font les autres, n'est pas forcément bon pour nous, parce qu'il y a des trucs que font les autres, on ne sait pas en fait le passé, on ne sait pas ce qu'ils ont, on ne sait pas tout le comment ça s'appelle, ce que j'appelle moi les handicaps. Mais par exemple ce matin, cette nuit ma fille s'est réveillée 3 fois. Autant vous dire que ce matin, si j'étais pas très frais au moment où je l'attaque la journée, c'est aussi parce que j'avais à gérer ces levées de la nuit, etc. Et que ce qu'on voit sur les réseaux, des fois, nous l'explique pas, ou alors qu'ils ont des solutions pour le gérer, etc. Bref.
Alors justement, je rebondis sur 2 points qui me semblent super importants dans ce que tu as dit. Premier point, c'est qu'il existe des données scientifiques qui ont été faites sur le taux de la quantité d'activité physique. En fait, il y a une courbe en U qui existe sur le temps d'activité physique, sur les bienfaits potentiels sur la santé à moyen et long terme. La courbe en U, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on prend le temps que les individus vont passer à faire du sport. Donc, et en fait, on constate qu'il existe des effets négatifs à la pratique de l'activité physique, à trop peu d'activité et à trop d'activité. Mmh. Et ça, c'était, je ne sais plus qui le disait, Denis Richer, je crois, qui disait qu'en fait, l'activité physique, c'est le seul moyen, c'est avec toi, de rendre quelqu'un en bonne santé malade. Et donc, en fait, globalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que jusqu'à 10 heures d'activité physique par semaine, on est sur un top de santé. Et là, il y a un plateau qui s'installe. Donc, en gros, bah, l'OMS dit 30 minutes d'activité physique quotidienne. Hein, donc, ça veut dire on est à 3h30 à peu près minimum par semaine. C'est pas mal. Moi, je pense que chez un adulte, on peut monter jusqu'à 45 minutes. C'est bien 45 minutes. Donc, 30 à 45 minutes par jour, c'est pas mal. C'est déjà une bonne... Ensuite, il y a des effets qui augmentent entre 3h30 et 10 heures. C'est-à-dire qu'il y a une courbe qui augmente très très fort et on a des bienfaits d'activité physique. À partir de 10 heures, il y a un plateau qui se met en place et globalement, on voit plus trop d'effets positifs entre 10, je crois, et 17 heures. Et ça commence à décliner à partir de 17 heures par semaine. Et là, après, bah, ça décline, hein, plus il y a de l'activité. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je veux rebondir, et tu as parlé des réseaux, et c'est très bien, parce que je suis actuellement dans une démarche de lutte qui me tient énormément à cœur, tu vas te marrer, mais qui me tient énormément à cœur sur, tu sais de quoi je vais parler, sur le fact-checking et sur toutes les fausses informations qu'on peut trouver sur les réseaux. Et j'en profite parce qu'on entend tellement, tellement, tellement de fausses informations, et souvent, et très souvent, et c'est juste comme ça au passage que je le dis, les fausses informations que l'on entend, elles sont dans les excès. Soit dans le trop peu, soit dans le trop, trop, trop. Mmh. Et donc, ça, c'est un signe. C'est-à-dire, c'est peut-être simplement déjà le premier indicateur. Quand on entend sur les réseaux un aliment magique, une pratique magique, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. C'est-à-dire que le corps, il aime l'équilibre. Il aime l'équilibre et il aime, bon, sauf les belins.
Abracadabra, j'ai un corps magique. Enfin, j'ai un corps tac d'athlète. Non, ça n'existe pas, la baguette magique?
C'est ça. Et dans cette idée-là, c'est même ça. C'est-à-dire que c'est très bien ce que tu dis, Bertrand, et je te remercie parce que ça fait tellement du bien de pouvoir le dire et de l'entendre. C'est que le corps à 5% de matière grasse, c'est pas un corps santé. Et même chez l'homme, enfin, tu vois, c'est... En fait, là-dessus, on le sait encore pas, mais clairement, les sportifs de haut niveau ne sont pas en santé maximale. Et d'ailleurs, leur système immunitaire, il est plus faible, ils tombent plus facilement malades, etc. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si d'emblée, ils chopent plus facilement une grippe, on imagine ce que ça peut donner avec des maladies un peu plus complexes. Donc, le corps santé, le corps parfait, il est plutôt vers 12-15% chez les hommes de gras et puis 15-20% chez les femmes. Quoi.
Et je peux te faire une confidence.
Vas-y.
Parce que sur mon Instagram, moi je passe du temps sur Instagram contrairement à toi, et j'ai vu passer des informations qui étaient assez intéressantes, et notamment sur, tu sais, le taux de masse grasse, notamment à part avec les abdos. Et l'autre jour, j'ai vu une statistique qui montrait en fait que pour qu'une femme soit en bonne santé, alors je ne sais plus quel taux de gras il fallait, et qu'en même temps...
Entre 15 et 20.
Ouais, et qu'en même temps, il y avait un chiffre qui disait, bah, pour faire apparaître les abdos, il faut un taux de gras qui soit plus faible, en fait. Qui montrait. Et hier, je suis tombé, tu sais, les réels Instagram, ils montrent des trucs en disant, il faut regarder ça et tout. Je suis tombé sur une, je crois que c'est une Colombienne, qui est suivie par je ne sais pas combien de millions de personnes. Et honnêtement, faut le dire, hein, c'est une bombasse, quoi. Mais qui se vante d'avoir des abdos, d'être extrêmement sèche et tout. Et par contre, on se rend compte qu'elle perd énormément, c'est-à-dire qu'elle est en train de s'affiner et tout. Et il y a des gens qui ont fini par lui dire, mais attends, moi j'arrête de te suivre, t'as pas l'air en bonne santé. Et alors que elle, en fait, ouais, elle est rentrée dans le truc de sculpter les abdos et tout. Et j'avais vu passer cette information-là en disant que à un moment donné, il y a une espèce de d'image de la société qui va se mettre les hommes. Taux de masse grasse qui est nécessaire pour faire apparaître les abdos ne met pas en danger la santé, mais que chez les femmes, et c'est pas vraiment le truc, et que de dire d'avoir des abdos apparents toute l'année, notamment chez les femmes, c'est pas être en bonne santé. Parce
ouais,
que...
et puis après, ça dépend des morphotypes.
Et ça dépend des morphotypes.
Femmes qui vont plus stocker dans tout ce qui est bassin. Bon, et en fait, c'est clairement ça. C'est le corps esthétique n'est pas le corps santé. Ça, c'est une certitude. Et chez les hommes, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que en fait, l'apparition des abdos, globalement, il est entre, je crois, 12 et 15 %. Tu commences à les voir à 15 % et c'est de plus en plus saillant. Mais en fait, il y a quand même une donnée aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que plus c'est pas du bullshit, plus tes abdos en dessous ils sont développés et plus on les verra, c'est-à-dire et il y a des formes d'abdos qu'on voit plus, c'est-à-dire que vous les hommes, vous avez des abdos qui sont plus profonds que nous, comme tous vos muscles au final, et donc c'est logique que chez un homme on voit plus facilement les abdos parce que au départ ce qui est dessous c'est plus profond et c'est plus tracé quoi en dessous quoi, donc même si tu rajoutes une épaisseur un peu plus importante voilà, et mais bien sûr du coup c'est pour ça que chez les hommes ça met potentiellement moins en danger, mais bon moi je pense qu'en dessous de 10% on parle du syndrome Reddes chez les femmes, mais on sait très bien que ce syndrome il n'existe pas de telle manière chez les hommes parce que on n'est pas sur les mêmes problématiques hormonales, malgré tout on sait aujourd'hui que le déséquilibre énergétique relatif, comme on l'appelle, il touche aussi les hommes et il place aussi les hommes dans des situations de vulnérabilité. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on peut enchaîner sur le facteur suivant, qui est la récupération. Parce
Exactement.
Que justement...
C'est l'épisode 13 et 30, et là, tu vois, tu deviens de plus en plus à l'aise, tu arrives à gérer les transitions. C'est cool. Bientôt, je vais pouvoir dormir pendant les épisodes, c'est nickel.
Donc, la récupération, ça sert à quoi ? Ben, la récupération, c'est sans doute un des facteurs aussi peut-être les plus importants avec l'alimentation. C'est ton SAM. Hein. Moi, j'adore ton SAM, hein. Je suis archi fan. Je l'aurais jamais appelé comme ça toute seule, mais je me l'applique tous les jours. Hein. Donc, SAM, pour ceux qui ne savent pas encore avec Bertrand, c'est sommeil, alimentation et mouvement. T'as vu, en plus, je connais...
Ouais, alors, il va falloir que je fasse évoluer un petit peu le sigle, parce que dedans, je vais y rajouter la partie mentale et émotion. On parlait... L'autre fois, on avait fini sur la préparation mentale. On parlait de l'évolution mentale qu'on a, etc. Et pourquoi je le dis ?
Pour moi, c'est transversal.
C'est transversal.
En fait, tu peux pas le mettre au même niveau que les autres.
Tu peux pas le mettre au même niveau, mais en fait, ça reste des multiplicateurs. Et ce que je voudrais bien comprendre, pour expliquer un truc aux gens quand même sur SAM, c'est que sommeil, alimentation, mouvement, c'est que vous pouvez pas vous dire, c'est pas des ajouts, c'est pas sommeil plus alimentation plus mouvement égale truc. C'est que s'il y en a un qui est à zéro, comme c'est des multiplicateurs, tout tombe en fait. C'est-à-dire que la bonne santé, on l'a pas. Si on dort pas, c'est pas possible que le reste fonctionne, etc. Et je me suis rendu compte quand même que dans le mental et les émotions, c'est pas au même niveau.
Je suis pas d'accord.
Mais en fait, c'est un élément qui peut annuler.
Je pense qu'il faut pas dire que c'est des multiplicateurs. Parce que c'est culpabilisant. Ça veut dire, dans une santé optimale, bien sûr, Bertrand. Mais il vaut mieux avoir une très bonne alimentation, un peu de mouvement et peut-être mal dormir que rien du tout. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas. Tu vois, je préfère quelqu'un qui me dise, moi je mange hyper bien. Je dors bien, mais j'arrive pas à faire de l'activité physique. C'est mieux que quelqu'un qui dort juste bien.
Oui, je suis d'accord avec toi sur ce
Mais je suis
point-là.
d'accord avec toi dans l'absolu, le pilier de la santé, et c'est la naturopathie qui le dit aussi, hein, c'est une approche très, très préventive de la santé. Je suis d'accord avec toi que les trois piliers sont fondamentaux et qu'on ne pourra pas être bien dans notre quotidien, on ne pourra être bien dans notre quotidien qu'à l'unique condition qu'on ait les trois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il faut bien déculpabiliser aussi quand on commence. C'est-à-dire, toi, tu as un niveau avancé, ça fait des années que tu travailles là-dessus. Donc c'est logique que tes piliers, ils deviennent de plus en plus solides. Quelqu'un qui part de zéro, moi je pense que c'est pas une bonne idée de lui dire d'emblée qu'il y a trois piliers et que si en gros il y en a un, et ben c'est zéro. Tu vois, c'est dur après derrière en termes
Ouais, mais
de
alors,
réussite.
zéro, on va dire que c'est des multiplicateurs, donc c'est des 0.1, 0.2, tu
Voilà,
vois.
ok,
Si t'es
ouais, je
tous
suis
les piliers
d'accord
sont
avec
à 1,
toi.
si
Ouais,
t'as un
ok.
pilier qui est à 0.5, ça annule un petit peu les effets de ce qui se passe
Oui.
ailleurs. Et les émotions et le mental, c'est un peu pareil. Parce que combien de fois en fait, si t'es pas bien sur certains de ces piliers-là, tes émotions, les gérer, ça peut être compliqué. Et si t'es pas bien au niveau émotionnel, on le sait. Moi, je dis, par exemple, si je suis en colère, tu m'envoies courir quand je suis en colère. Et ma séance, elle est dégueulasse. Je cours trop vite. Tu sais, j'essaie de me défouler en fait, alors qu'il faudrait que je tape sur un tapis, un truc de boxe. Mais en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que Sam, en fait, je vais le faire évoluer petit à petit, parce qu'il faut rajouter aussi cette dimension qu'on est quand même des êtres humains avec des émotions. Et on en a
Bien
parlé il n'y a pas
sûr,
longtemps sur cette
bien
histoire-là.
sûr.
Et que pendant longtemps, moi, je ne l'ai pas pris en compte parce que, tu sais, c'était mon éducation en disant les émotions, on s'en fout, ça compte pas, etc. Et en fait, il faut le prendre en compte parce que on parlait sur l'alimentation, l'impact sur l'alimentation, mais l'impact sur la motivation qu'on peut avoir certaines fois, pas d'autres fois, etc. C'est beaucoup lié à nos émotions, à notre mental, à notre
Bien
manière de
sûr.
penser, le foutu pour foutu, en disant, bah non, ça sert à rien que je le fasse, ou la motivation, on va la chercher, etc. Donc Sam, il faut que je l'évolue. Donc s'il y a des gens qui ont une idée pour faire évoluer le sigle Sam
Mais
sans
moi,
que ça le transforme en truc trop compliqué.
je crois beaucoup plus à la pensée. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, moi, j'ai un schéma en termes on va dire, de life coaching quelque part, j'en avais parlé, je crois, d'ailleurs, dans un épisode sur l'histoire du lien entre les émotions et les actions. Et l'action sur notre comportement. Tu te souviens, j'en avais parlé. Et en fait, j'avais expliqué qu'on ne peut pas jouer sur nos émotions. Parce qu'en fait, les émotions, c'est le corps qui les crée, c'est biologique et c'est des sécrétions d'hormones. Là où on peut jouer, par contre, c'est sur les pensées qui mènent à ces émotions. Donc peut-être que dans ton Sam, plutôt que de parler d'émotion, peut-être parler de pensée. Et en fait, je pense que les pensées sont à l'origine de tout. C'est-à-dire que c'est parce que tu penses que tu dors bien, que tu manges bien, et que tu es capable d'avoir, comme tu dis, une activité physique qui est cohérente. Parce que, comme tu le dis, si au départ le système de pensée, il est pas bon, et d'ailleurs on le voit dans un... Tu sais, moi j'aime bien voir les choses sur un spectre. Globalement, pour moi, on n'est pas dépressif ou pas dépressif. Il y a une échelle entre les deux, tu vois. Mais tu prends une personne ultra dépressive avec vraiment tous les critères de la dépression, donc a priori dans laquelle les pensées sont plutôt négatives, ok? En fait, les trois piliers sont impactés. Hein. Ces gens-là, ils
Ah oui,
dorment pas,
ça je peux te confirmer,
ils mangent
pour
mal.
l'avoir vécu, je te confirme.
Ils mangent mal et il n'y a plus de mouvement. Souvent, il n'y a plus de mouvement ou il y a trop de mouvement, tu vois. Et donc, moi, je pense que c'est plutôt l'histoire de la pensée. C'est qu'est-ce que je pense de mon action? Qu'est-ce que je pense de ce que je vis, en fait? Pour moi, je pense que c'est plutôt l'intellectualisation, la rationalisation ou la prise de conscience. Et peut-être que dans Sam, ça pourrait être un PSAM avec un P, un tiret. Je sais pas, je suis en train de
Je sais
te le
pas.
construire. On verra,
Bon,
mais en tout cas, pour moi, il vient avant. Tu
mais c'est
vois?
une bonne idée, tu vois,
Comme
de
l'histoire de
trouver.
Redes, par exemple, tu vois, avec
Ouais.
le tiret Edes à la fin, bah toi, tu pourrais mettre un truc avant avec un tiret. Mais donc, la récupération, super important, le sommeil, super important, mais tel qu'on vient de l'expliquer, on vient d'expliquer que, en fait, on est tributaire, on est dépendant. Notre sommeil, on ne le décide pas, en fait. Notre récupération, on peut. Alors, la récupération physique, c'est facile. Parce que récupérer physiquement, c'est se forcer à se mettre dans un canapé, dans un lit et au moins physiquement ne plus bouger. Donc, entre guillemets, on est maître de notre
Ce que je
récupération
vais faire dans
physique.
10 minutes quand on aura fini d'enregistrer.
T'as bien de la chance, pas moi. Donc,
Mais moi, j'ai
mettre...
commencé à 4h du matin ce matin, hein. Alors, écoute, il est
Ah,
13h bientôt.
effectivement, tu n'as pas de chance, pas moi. Bon, on est maître de notre récupération physique. Malgré tout, on est aussi maître de notre récupération mentale, mais c'est quelque chose de bien plus difficile à construire, parce qu'en fait, c'est-à-dire que c'est une construction sur le long terme. La gestion de son mental et de sa récupération mentale. Alors que la récupération physique, à partir du moment où je décide de me coucher, je me couche. J'ai pas dit que j'allais me récupérer complètement d'un point de vue mental, justement, mais... Et donc, ça nécessite une vraie préparation mentale, d'accepter, parce qu'il y a des personnes qui sont en difficulté pour relâcher prise, pour dormir, pour se reposer. Mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse un épisode sur le sommeil, parce que c'est très complexe, c'est très global, et donc je te propose qu'on passe à un autre facteur, Bertrand, qui est pour moi un facteur relatif au matériel. Alors, on en a un tout petit peu parlé. Et c'est pareil, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un épisode entièrement dédié à ça.
Il y a gros débat en plus, hein, je crois, sur le truc. Hein.
Sur plein de choses, il y a gros débat. Mais
il y a gros débat sur plein de choses.
On va simplement là dire que le matériel est un élément de facteur, un facteur de performance. Le seul argument à ça, parce qu'il y a des gens qui te disent oui, c'est pas vrai, machin. Le seul argument qu'on peut donner à ça, c'est déjà l'évolution des records d'un point de vue de l'histoire. C'est-à-dire que si le matériel n'avait pas d'influence sur la performance, il n'y aurait pas d'évolution des records. Parce que l'être humain, il a le même patrimoine génétique. Alors, bien sûr, on s'entraîne un petit peu mieux qu'avant aussi, bien sûr. Malgré tout, quand on voit des sports ultra techniques, je pense à, par exemple au saut en longueur, au triple saut, au 50 mètres nage libre en natation, on est sur des activités qui sont ultra techniques, dans lesquelles la technique a une part prépondérante dans la performance. Ben, y a des évolutions de records qui sont dingues. Et dans le même temps, il y a des records qui évoluent peu. En saut en longueur, je crois que c'est un record qui date d'il y a je sais plus combien de temps, qui est hyper vieux.
Il a tenu très longtemps le record de saut en longueur. Il a été battu, après il a tenu très long. Enfin, ça fait
mais il y est toujours, je crois que c'est le record de Carl Lewis, non c'est pas, il n'est pas à 8m95, c'est pas toujours le même.
C'est pas Carl Lewis hein, qui avait le record, hein, déjà, parce que c'est Mike Powell. C'est Powell. Carl Lewis l'a battu le même jour, c'était le mythique, ouais, le mythique parlé, ouais. Concours entre les deux. Donc on peut un peu réécrire l'histoire entre les deux, mais bon, on peut se rappeler que finalement, c'est un peu comme l'histoire de l'UTMB où les deux passent en dessous des 20 heures et on retient qu'il y en a qu'un qui l'a gagné et qui a inscrit son nom. Et bien, sur Carl Lewis, malgré la grande carrière qu'il a eue, finalement, le record, c'était Mike Powell. Mais c'est vrai que c'est des records qui tiennent pendant des années, des années, des années.
Il y a autre chose.
Seront battus.
Il y a autre chose sur l'histoire du matériel et l'influence du matériel. Moi, je trouve que le meilleur argument, c'est l'histoire des combis polyuréthane en natation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis des combis, et c'est factuel, c'est du matériel, qu'on dise que c'est du dopage technique, on s'en fout, c'est matériel, c'est factuel. On met des combis polyuréthane, certes, on augmente la flottabilité, mais derrière, bah, y a des records, tous les records tombaient à ce championnat du monde. Mmh. Et aujourd'hui, il y a des records qui ne tomberont plus parce que c'était tellement... Donc, le matériel est un aspect énorme dans notre performance. Et aujourd'hui... Le problème, moi je crois, hein, c'est un vrai problème de société, c'est qu'on accorde, nous en tant que sportifs entre guillemets amateurs, en opposition à des sportifs non professionnels, je pense qu'on accorde bien trop d'importance au matériel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de simplement de se dire qu'il vaut mieux investir dans de l'humain, dans de la préparation physique et mentale, dans un accompagnement peut-être de type coaching, etc., que dans l'achat d'un gros matériel. Je vois sur des triathlons... Il y a des gens ils font des crédits pour avoir des vélos parce que c'est pas un jugement. Malgré tout, je pense qu'on pense que c'est l'outil magique et que finalement c'est entre guillemets le truc entre guillemets à moindre coût au-delà du coût financier. Mmh. Et en fait, ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement important à dire, c'est que bien sûr que le matériel a une incidence, mais toute chose gardée et toute proportion gardée. Je pense qu'il vaut bien mieux faire un travail sur soi, interroger plusieurs paramètres dont on a parlé. D'ailleurs, on a parlé de Sam, hein, on n'a pas parlé du matériel dans les premiers paramètres, plutôt que de penser et de se leurrer, parce que finalement, notre but, ce n'est pas de leurrer les gens, c'est vraiment de revenir à des réalités. Ce n'est pas évident de dire ça. Malgré tout, moi, j'y crois, je suis convaincue, et quand je suis convaincue d'une chose, je pense que c'est important de le dire. Le matériel est important, mais le matériel, clairement, est bien moins important que lorsque l'on a compris des choses sur nous-mêmes, et la meilleure machine, c'est quand même nous. Hein. Le meilleur carburant qu'on peut mettre, c'est quand même nous. Et il y a pas mal de choses aujourd'hui, et je pense qu'il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus, parce qu'on a du matériel qui est à la fois numérique, le biohacking, hein, je suis fan depuis que j'ai écouté cet épisode, le biohacking, c'est passionnant, c'est-à-dire qu'on est capable au quotidien de traquer la moindre information, le moindre critère qui nous permette d'être en bonne santé. Mais au-delà de ça, bon, on a aussi du matériel juste technique. Tout à l'heure, j'expliquais que le simple fait de courir avec une ceinture, ben, je pense que c'est au détriment de la performance. Donc, on voit bien que le matériel, il peut être dans un cas ou dans un autre, en faveur ou en défaveur de la performance. Bien entendu, on a un débat aujourd'hui sur, alors, bien sûr, les chaussures et les plaques de carbone, bien sûr, mais aussi sur la question du minimalisme. On va pas le traiter ensemble, mais il faut qu'on ait ce débat à Bertrand un jour parce que c'est très intéressant.
J'ai une super photo en plus ce week-end, c'était génial. Vas-y, je te laisse finir et après je raconterai la photo.
Non, vas-y, je t'écoute. Vas-y.
Parce que c'était un truc, je peux le dire, parce que c'est sur le compte de Running Addict. Et Running Addict, Nico, il était au marathon, au 10 km de Valence, et il met une photo où il est en souffrance. Et derrière, il y a une photo et il y a un mec qui court pieds nus. Et les gens, il y a eu des dizaines et des dizaines de commentaires sur la photo du mec qui court pieds nus derrière lui.
Je l'ai vu, je vois à quoi tu fais.
Tu vois la photo. Et il y a des gens qui disent oh, mais c'est dingue, le mec qui court pieds nus et tout. Alors moi, j'ai fait des recherches, tu sais, mais moi, je suis comme ça. Je prends le numéro du dossard, je regarde les trucs, etc. Et je me rends compte que ce gars-là, il court pieds nus, il fait 35 minutes au 10 km, à peu près. 35-50, il fait ce jour-là. Et que, en fait, c'est un gars qui court souvent pieds nus, qui a fait des podiums. Et alors, il est team de coureurs pieds nus et tout, etc. Et donc, j'ai commencé à mettre des commentaires en disant mais attendez, c'est pas le seul qui court pieds nus, il y a des gens qui en font plus de kilomètres, des gens qui font plus ça, etc. Et t'as l'impression que d'un coup, ça a ouvert à certaines personnes, tu sais, un autre monde en fait, en disant mais on peut courir pieds nus en fait, on peut courir minimaliste, on peut courir en sandales, etc. Et alors, je dis pas qu'il faut, attention, je dis oui, il y en a qui le font. Et ce qui était drôle, c'est que au milieu de cette foule en carbone, il y avait ce coureur pieds nus qui a le même temps qu'eux, mais ce qu'on sait pas, c'est son historique, la récupération, parce que dans le même temps, j'ai commencé à voir, il y a des études qui sortent aussi sur la récupération, sur l'impact du carbone, sur la récupération, sur l'enchaînement, sur les muscles, etc. Et on va en avoir beaucoup. Alors, il va falloir apprendre à lire, savoir comment tout ça,
ça
fait, etc. Ça va être très intéressant de le voir. Mais c'est vrai que tous ceux qui ont testé le carbone disent qu'ils arrivent à mieux récupérer, il y a moins de fatigue, il y a plein de trucs, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est que sur le plan purement perf, dans ce milieu de ces bonhommes-là, dans les mecs qui courent et 35 minutes au 10 km, moi j'en rêve, eh ben, il y avait autant des mecs en carbone que des gars, qu'un gars qui courait pieds nus, peut-être d'autres en sandales, peut-être d'autres en five fingers, etc. Et que bah, finalement, tu peux pas dire il y a ce truc-là, c'est absolument ça. C'est vraiment beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que, pour en faire un épisode, mais on peut en faire plein d'épisodes sur ces sujets-là, parce que c'est vraiment un truc incroyable.
Moi, j'ai évolué dans ma conception par rapport à ça, mais j'ai une réflexion plus globale au-delà des chaussures, tu vois, c'est de dire, bah, en fait, on ne sait pas comment ça pourrait être si on faisait autrement.
C'est ça.
Et c'est ça, en fait, le truc. C'est-à-dire.
Et là, ça te titille, ça. Hein. Ouais, tu es en train de.
Et ben oui, parce que finalement, on est convaincu que ce qu'on fait, et ça, c'est vrai pour tout, hein, c'est tous les facteurs qu'on a évoqués aujourd'hui et la semaine dernière. On est convaincu que le choix qu'on a fait, c'est le meilleur. Ça, c'est, je sais plus, il y a quelque chose qui s'explique, c'est humain, je sais plus pourquoi.
C'est un biais, ouais, c'est un biais psychologique.
Ouais, c'est un biais de protection de soi, je crois, c'est un truc comme ça.
Ouais, puis c'est, on est sûr, on veut être sûr qu'on a fait le bon choix. Donc,
et oui, parce que sinon, de toute façon, on ne pourrait pas le suivre. Voilà. Mais la question, c'est finalement, est-ce qu'on. Et on ne pourra jamais le faire, et c'est ce que je dis toujours, parce qu'en fait, c'est rien que si on faisait l'expérience pour nous-mêmes et qu'on disait, allez, je cours un an en sandales, un an en five finger, un an avec de la plaque, etc. On ne pourrait pas comparer, parce qu'au final, déjà, d'un an à l'autre, on n'est pas la même personne. Les conditions ne sont pas les mêmes, nos capacités ne sont pas les mêmes. Et en fait, c'est ça qui me titille, c'est toujours de me dire, mais si je faisais autrement, est-ce que ça serait mieux ou est-ce que ça serait moins bien pour moi ? Et en fait, on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Ouais. Et donc, en fait, je pense que bah, en fait, c'est juste un système de croyances. Alors, on le sait, si, on le sait. Alors, j'ai un exemple en tête, l'exemple de Lucille Woodward, par exemple, dont tu m'as parlé, et tu as raison, je la suis un petit peu, qui est passée sur du minimalisme, qui avait une fracture de fatigue et tout, mais pour l'instant, elle va bien. Mais qui nous dit que peut-être, je ne lui souhaite pas, hein, c'est parce que je lui souhaite, mais à court terme, ça va, ça se passe bien et tout, mais qui nous dit que ça ne va pas engendrer d'autres choses, peut-être à moyen et long terme. Elle a une fracture de fatigue. Bon, bah, chez la femme, malheureusement, c'est classique. Hein, on sait pourquoi. Quand la charge est trop importante. Bon, après, ça ne veut pas dire que peut-être que si elle avait été avec d'autres chaussures ou avec d'autres trucs, ça aurait été pareil ou pire. On ne sait pas, en fait. Et je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que le choix du matériel, il est très personnel. Et je pense que déjà, l'idée, c'est à court terme, on sent des choses. Moi, je le vois, j'ai mis du temps à passer sur de la chaussure à plaque. Alors, je ne suis même pas sûre que les miennes, elles en aient. J'ai la Zoom X, mais je ne suis pas sûre. Je crois qu'il y a un petit truc, mais je crois qu'il y en a une, mais que ce n'est pas vraiment une plaque. J'en sais rien.
Tu parles à quelqu'un qui n'y connaît rien en chaussures en carbone. Voilà. Hein. Je peux te dire, tiens, je ne vais pas au rayon carbone en disant, je veux celle-là pour mettre mon record. Alors, moi, je ne suis pas ce genre-là.
Je crois qu'il y en a une. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand même à court terme, j'ai ressenti des choses qui se sont avérées vraies dans la littérature, que j'ai pu retrouver dans la littérature dont je viens de parler, sur la récupération, sur vraiment cette sensation sur une sortie de 2 heures que j'ai pas couru 2 heures, quoi. Sur une sortie de 2 heures à allure rapide, j'ai pas couru 2 heures, j'ai couru 1 heure, quoi. Donc, j'ai quand même senti des choses qui s'avèrent relativement vraies. Après, Moi, je pense aussi que ce type de chaussures, et ça, on le dit pas assez, parce que y a plein de gens qui sortent faire leur footing avec les chaussures de plaque. Et honnêtement, moi, je pense que c'est pas adapté à la morphologie de la foulée du footing. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la première fois que je les ai essayées pour aller faire un footing. Et je suis rentrée au bout de 10 minutes en me disant, mais c'est de la merde ces chaussures, je peux pas courir avec ça.
Puis ça fait un bruissant d'enfer ces trucs-là, plaque, plaque, plaque.
Parce que ce jour-là, je pense que musculairement, j'étais pas armée pour absorber. Parce qu'en fait, il faut quand même se dire que ça renvoie. Il y a ce qu'on appelle la contrainte renvoi, quoi. Et en fait, je pense que ce jour-là, musculairement, j'étais pas OK pour absorber le renvoi, en fait. Et donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que quelque chose qui porte des bénéfices au départ peut engendrer des contraintes et des limites, si tant est que ça ne soit pas en accord. Et donc, je pense que le premier conseil à donner, parce que du coup, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, le seul conseil qu'on peut donner, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on sent ? Et rien qu'en termes de marque, de choix de marque de chaussures. Mais c'est tellement compliqué de se dire quelle marque est bonne pour moi. Alors, il y a quand même des indicateurs qui sont à prendre en compte dans les marques de chaussures, sur lesquelles on peut quand même insister un tout petit peu, parce que ça me semble super important, non pas tant pour la performance, mais pour la préservation de la santé. Déjà, il y a la question du drop. On en parle depuis tout à l'heure, hein, parce que le minimalisme, c'est juste un drop de zéro. Mais on peut avoir un drop bas et avoir un peu d'amorti en plus. Voilà. Donc le drop, en fait, c'est l'écart qu'il y a entre l'avant de notre chaussure et l'arrière de notre chaussure. Spontanément, notre pied, il est fait pour être à plat, puisque si on marche pieds nus, il n'y a pas de drop. C'est-à-dire que nos orteils sont à la même hauteur que notre talon.
Je suis en train de vérifier mes pieds qui sont posés pieds nus sur mon sol. Effectivement, ils sont exactement à la même hauteur. Le sol est droit.
Je suis en train de les regarder et tout. Les choses simples sont souvent les meilleures. Merci d'apprendre.
Voilà, je pourrais faire une photo, mais je confirme, je n'ai pas de talon intégré.
La question qu'on peut se poser à l'inverse, c'est finalement pourquoi on en est venu à du drop ? C'est-à-dire, si vraiment, tu vois, je pars de l'évidence, c'est ça, hein. Si vraiment l'évidence était que on n'avait pas besoin de drop, mais quel fabricant de chaussures se serait dit il faut du drop ? En fait, on a mis du drop parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça créait moins de contraintes sur la chaîne postérieure. La chaîne postérieure, c'est tendons d'Achille, les jumeaux, les ischios, les fessiers. Et en fait, la question, c'est ça. Et c'est toujours une histoire d'objectif. Parce que l'un des arguments avancés par les gens qui sont en minimalisme, c'est de dire oui, mais notre corps, il est fait pour fonctionner comme ça, donc on va dans le sens du fonctionnement spontané de notre corps. Et je suis d'accord, je l'entends. Sauf qu'il y a autre chose derrière, c'est qu'est-ce qui est bon pour la performance ? Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait potentiellement un écart entre un corps santé et un corps performant. Mmh. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, sur un corps santé, ce qui est peut-être mieux, c'est d'avoir peut-être, effectivement, même si je mets des réserves, t'as vu, c'est d'avoir peut-être une forme de minimalisme et de drop assez bas pour revenir, en fait, à une posture initiale que le corps aurait pieds nus. Et dans une logique de performance, pour limiter ses contraintes, donc potentiellement limiter les blessures, c'est peut-être mieux de moins charger la contrainte sur la chaîne postérieure et d'avoir un drop un peu important. Mais après, il y a aussi une histoire de souplesse naturelle et d'élasticité naturelle de cette chaîne postérieure chez certains individus. Il y a des gens qui sont ultra raides, qui ont des, dont je fais partie, vos métiers.
Moi aussi.
Voilà, c'est-à-dire d'emblée, s'il y a une contrainte, tout de suite, ça peut céder. Alors qu'il y a des gens qui sont plus souples, qui ont des qualités de souplesse, etc., d'élasticité plus importante. Et la question est là, c'est-à-dire, je pense que en fonction de notre corps et de justement l'élasticité de nos tissus, il faut interroger le drop en fonction de ça. Je pense qu'il y a des individus pour lesquels je ne recommanderais jamais d'être sur un petit drop. Et j'en fais partie, je ne descendrai jamais un drop en dessous de 10. Parce que je sais que ça met trop de contraintes sur ma chaîne postérieure, tu vois. Et j'ai essayé, hein, je suis descendue à 6 et tout, et d'emblée, ça crée des tensions, des douleurs. Peut-être qu'il faut y passer. Peut-être que... Mais alors, est-ce que c'est ce que je souhaite ?
Voilà. Mais je vais te dire un autre truc, c'est qu'on va revenir sur l'histoire de l'entraînement croisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois avoir un entraînement croiser quelque chose qui te permette de passer sur ces drops-là. Parce que c'est vrai que quand tu passes de ce drop-là, c'est sûr que franchement, ça tire dans tous les sens parce que ça vient solliciter, et puis sur la longueur, sur la force, sur la puissance, tes muscles, tes tendons d'une manière qui est totalement différente. Et c'est sûr qu'il faut avoir à un moment donné le travailler. Et tu sais, j'ai envie de dire aussi, mais c'est pareil un peu sur l'histoire des plaques carbone. C'est que je pense que ceux qui exploitent le mieux les chaussures à plaques carbone, c'est aussi ceux qui ont la meilleure foulée, qui ont la meilleure technique de pied, qui ont la meilleure force, et c'est ceux qui font du renforcement musculaire, qui font de la musculation des jambes, qui ont fait d'orgames, qui savent poser le pied, qui savent travailler le rebond, etc. Et c'est sûr que quand on regarde les athlètes, les super bons, on dit ils sont tous en plaque carbone, c'est pour ça qu'ils sont devant. Non, ils sont devant parce qu'ils savent courir, parce qu'ils ont, sont entraînés pendant des années, et que si on leur rajoute en plus le carbone, derrière, ils sont capables de démultiplier, en tout cas, la, ce qu'ils sont capables de faire avec. Et je pense, parce que moi, j'ai vu dans les pelotons, j'ai vu des gens, mais en plus, ça fait clac, clac, clac. Quand je vois comment ils posent les pieds, je me dis... Pff. Et des fois, tu sais, tout à l'heure, tu disais un truc très intéressant. Quand tu disais, les gens, en fait,
merci,
ils vont investir dans un vélo.
J'aime bien quand tu me dis que c'est des trucs intéressants.
Et en fait, tu dis, les gens, ils préfèrent investir dans un vélo ou dans une paire de chaussures que dans un coaching. Et en fait... C'est un truc, je pense, sur la technique de course. C'est un truc qui est intéressant. Et tu as parlé tout à l'heure de Lucille Woodward. C'est que Lucille Woodward, elle a investi dans du coaching pour apprendre à courir en minimaliste.
Ouais.
Elle a, alors, on avait discuté, j'ai beaucoup discuté avec elle, des livres, on a échangé des idées de livres, etc., des certains sujets et tout. Elle a investi du temps et elle a pris des gens pour l'aider à passer en minimaliste.
Mais
parce qu'il y a un moment donné, c'est pas la chaussure qui te transforme en coureur minimaliste. C'est-à-dire que tu peux prendre mes Altra. Demain, si tu veux, tu viens chez moi, tu prends mes... Bon, allez, bon, chose du 47. Hein. Mais tu vas le sentir passer. Mais ce n'est pas parce que je te donne mes Altra que tu vas courir minimaliste du premier coup. Ce n'est pas vrai. Et par contre, apprendre à avoir une foulée un peu plus efficace, plus efficiente pour la performance, qui soit moins consommatrice d'énergie, qui ait plus de puissance, etc. C'est des choses, bah, il te faut des fois avoir un coach qui va t'aider, qui va te guider. Des entraîneurs d'athlétisme, ils sont là, ils savent le faire, ces trucs-là. Et je pense que c'est pour ça que la connaissance de soi et de son corps que tu as mis à la fin, là, c'est la ligne qui est tellement importante. C'est de dire aussi, bah, on a chacun nos qualités, on a chacun notre histoire. Tu parles de la souplesse, on peut parler de la musculature. Moi, j'ai le team des gens qui ont fait du foot, donc j'ai des gros mollets, des gros cuisseaux. Il y en a certains qui m'enviaient, mais je leur dis, quand il faut le trimballer, je t'envie plutôt tes jambes qui sont plus fines, etc. Mais on a chacun notre histoire là-dessus.
Des avantages et des inconvénients. À notre
voilà. Et la connaissance de soi et de comment on court, de comment on évolue et tout, est vraiment extrêmement important sur ces questions de matériel et sur ces questions d'entraînement et de performance.
Moi, je suis d'accord. Alors après, pour moi, ce facteur, en fait, je l'ai mis à la fin parce que pour moi, il est transversal. C'est-à-dire que je pense que la réflexivité et l'autonomie de la pensée, c'est précieux. Mais tu viens de donner un exemple ultra intéressant. C'est qu'à un moment donné, Lucille Woodward, elle a découvert un monde qui était le monde du minimalisme. Elle, a priori, n'avait pas forcément beaucoup de connaissances, sinon elle n'aurait pas fait appel à quelqu'un. Ben, elle a décidé, en fait, de devenir autonome et de réfléchir sur sa pratique, cette nouvelle pratique. Et moi, je pense, alors, bien sûr que ça me passionne parce que c'est mon métier, parce que forcément, voilà. Mais je crois que cette idée de rendre les gens autonomes, parce que c'est mon métier d'enseignante, hein, quand on est enseignant, c'est le but, hein, c'est de rendre les gens autonomes. Ben, je pense que c'est ça le plus important. C'est à quel moment, en fait, on va franchir le pas de se dire « Ok, mais très bien, là, je vais investir effectivement sans doute de l'argent et du temps dans un coaching, sans doute au détriment d'un autre poste budgétaire, certes, sans doute qu'à court terme, j'y verrai pas forcément beaucoup d'effets, mais à long terme, qu'est-ce que j'y gagne ? Ben, en fait, j'y gagne simplement de l'autonomie. Parce que, in fine... le fait de se faire accompagner à un moment donné à court terme, c'est très intéressant parce que ça permet de se laisser guider, ça permet de découvrir de nouvelles choses, ça permet de vivre une expérience aussi avec quelqu'un, parce que moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que je crois beaucoup à la connivence de l'accompagnement et à la proximité qui s'instaure entre une personne et un coach et un coaché, hein, clairement. Voilà. Donc il y a une relation humaine qui s'instaure. À court terme, on a vraiment des bénéfices, on va dire... humain et de progrès, voilà, on se laisse guider. Pour autant, s'engager intellectuellement dans cette démarche, c'est aussi se donner la possibilité de devenir très vite autonome si on le souhaite. C'est-à-dire que moi, j'aime bien être encadré, moi, j'aime bien être drivé, tout comme j'aime bien encadrer et driver aussi. Et moi, clairement, je préfère faire un truc avec quelqu'un que toute seule. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être seuls, et donc cette autonomie, elle s'acquiert. Cette autonomie, elle n'est pas innée. Cette autonomie, elle se construit. Et je crois que c'est ultra important parce qu'en fait, au final, tout ce qu'on fait là, nous, on est un peu dans cette logique d'éducation et d'apporter une autonomie en faisant les épisodes qu'on fait. Et c'est exactement le message qu'on veut faire passer. C'est que finalement, l'ensemble des facteurs, il y en a plein, mais on peut aussi envisager le fait que, bah, à nous de les choisir. Et si demain, on est autonome, eh ben, en fait, on va pouvoir vraiment choisir par nous-mêmes, faire les bons choix, etc., quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le message peut-être que je voulais faire passer pour conclure. Mais en tout cas, on a balayé quand même beaucoup de facteurs là, sur les deux épisodes. Dans le même temps qu'on est quand même rentré dans un niveau de détail sur certains. Moi, je crois vraiment qu'on refera des épisodes sur les uns et les autres de manière isolée, parce que plus je les balaye, plus je me dis qu'on avait des choses à raconter. Après, moi, j'adore l'idée d'avoir un débat, notamment sur la question du matériel. Je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Mais il faut bien avoir en tête que c'est difficile aussi d'apporter une réponse entre guillemets globale, commune, comme ça sur un épisode. Et c'est pour cette raison qu'on vous invite vraiment à nous poser vos questions, parce que c'est par vos questions qu'on va sans doute faire émerger, nous, de nouvelles réflexions. Je vois l'histoire de l'hydratation sur le dernier épisode, j'ai trouvé ça génial, j'y ai pas mal repensé après, cette idée de... effectivement, c'est quelque chose auquel on n'aurait pas du tout pu penser, l'histoire des ravitaillements aujourd'hui, c'est des choses passionnantes. Et puis, une nouvelle fois, notre performance, c'est aussi notre capacité à s'adapter. C'est aussi, on en parlait au tout début, hein, donc je vais conclure là-dessus, moi, mais pour moi, la performance, c'est surtout l'idée d'accepter qu'on doit s'adapter. C'est-à-dire qu'en fait, s'adapter, c'est pas spontané. C'est pas spontané parce qu'on prévoit toujours des choses. On prévoit toujours notre journée du lendemain, notre journée du jour. On prévoit de faire des choses. Et en fait, quand on a prévu un truc, c'est qu'on a décidé que c'était la bonne solution, que c'était la bonne décision à prendre. Donc cette décision, elle s'ancre, on va dire, fortement en nous. Elle a des raisons d'exister, quoi. Et s'adapter, c'est remettre en question ça. Et en fait, je pense que le meilleur moyen de performer, c'est d'accepter de s'adapter. C'est pas de s'adapter, c'est d'accepter de s'adapter. C'est de s'autoriser à s'adapter. Parce qu'en fait, s'adapter sous la contrainte, c'est pas s'adapter, c'est subir la contrainte. Et donc, moi, je pense que la question de l'adaptation dont on a parlé en tout début du premier épisode, c'est pareil, peut-être qu'on devrait faire un épisode dessus, sur l'adaptation à court, à moyen, à long terme. C'est quoi un plan quand on est blessé ? Moi, je pense à des gens... mais c'est pas grave, en fait. Et c'est ce qu'on disait. C'est le plan hypothétique, c'était celui-là qui était a priori parfait. Mais comment maintenant on peut arriver à l'échéance avec cette blessure et avec une adaptation du plan ? Ben voilà, allons-y. Et puis on recrée. Et en fait, le champ des... Moi, j'ai une phrase que j'aime comme je déteste, c'est que tout est toujours possible tant qu'on n'est pas mort. Je la déteste autant que je l'aime, tu vois ? À la fois, elle est glauque et en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire que tant que t'as ça en tête, tu te dis « tout est possible ». Tu vois, c'est pas si bête, hein, quand même, comme réflexion. Tu vois, ça donne du boost.
C'est comme les stoïciens qui disent souviens-toi que tu vas mourir.
C'est une question de patience, toute la question de savoir quand.
Et la question, c'est de savoir comment tu fais pour le repousser, en fait. Et c'est drôle, c'est que ça me permet de faire le bilan, parce que ceux qui auront écouté l'épisode qui sera sorti mercredi dernier sur mon projet Gravelman savent que le fait que je me mette au vélo, il y a l'histoire de l'entraînement croisé, mais il y a aussi l'histoire de la durabilité, de devenir ce fameux vieillard galopant, roulant, surfant d'ailleurs aussi, je le répète, il y a tout un tas de choses comme ça. Et c'est aussi comment, moi c'est une grande question, hein, cette histoire d'adaptabilité, et comment en vieillissant finalement je m'adapte à tout un tas de contraintes que je peux avoir, que je sais qui changent, et je sais aussi, je me rends compte que ce que j'ai fait l'an dernier comme type de course, comme type de défi sportif, m'a amené dans une adaptation de mon corps, de ma vitesse, de mon fonctionnement de foulée et tout, qui fait que tout de suite, je pourrais me dire, bah tiens, il y a des trucs, des points sur lesquels j'ai régressé. Et ça, c'est un truc et qu'il faut que j'accepte. Par exemple, sur ma vitesse, j'en parle souvent de cette histoire de la vitesse. Mais dans notre temps, j'ai progressé sur d'autres éléments. Et en fait, il y a un moment, bah, l'entraînement et l'adaptabilité, la performance, c'est aussi de regarder comment s'adapter en fonction de ça. Et comment se dire, bah maintenant, je vais me focaliser sur tel truc. Et on a plein d'éléments. Et c'est pour ça que c'était très intéressant de parler de tout ça. Sur ce, on va pas repartir sur...
C'est un peu frustrant parce qu'effectivement, on pourrait rentrer dans plus de détails, mais qu'il y a une part de frustration qui est évidente. Ouais. Après, justement, de cette frustration, nous, on a envie de rebondir et on a envie d'en tirer des choses.
Et c'est que quoi ? C'est le quatrième épisode de l'année ?
Ouais.
Ou troisième ? Quatrième?
Ouais, je sais pas, ouais,
Hein,
je sais plus.
et on a le temps, hein, d'en parler
C'est clair.
des
Ouais.
sujets. On a le temps. Donc, écoutez, les gens, tous ceux qui écoutaient, là, envoyez-nous des questions, envoyez des trucs. On n'a pas tout à fait répondu à la question de Maria Laura, mais bon, on lui répondra en privé sur le.
Si, vas-y, redis, c'est sûr.
Non, parce qu'en fait, c'est vrai que sur l'entraînement croisé, il y a une partie, en fait, qui était de dire que, bah, finalement, et c'est vrai que c'est pour ça que l'entraînement croisé pourrait faire vraiment le cœur d'un épisode complet, c'est de se dire que finalement, est-ce que sa question, c'était le fait de nager, bah, le fait qu'elle se rend compte que finalement, ça ne lui apporte pas sur ses jambes, sur la puissance de ses jambes, en tout cas, une capacité meilleure en course. Elle le sent sur le gainage, sur la respiration, sur des choses, mais peut-être pas sur la. Et tu as répondu un peu d'une manière ou d'une autre. Mais tu sais, comme tu as répondu tout à l'heure, tu as parlé de Florent Manodou. C'était très intéressant l'exemple. Parce que si tu regardes l'histoire de Florent Manodou, pendant longtemps, ses jambes ne lui ont servi qu'à une chose, c'est avancer. C'est juste de la propulsion. C'était juste de l'équilibre et de la propulsion. Et quand il est passé au hand, ils ont fallu qu'il lui apprenne à se servir de ses jambes, justement pour ce que tu disais, de dire oui, mais il y a l'espace, tourner, regarder où sont les partenaires, comment finalement, quand je dois me tourner pour faire une passe à quelqu'un, tout un système d'attaque, de feinte, etc. Et dire qu'en fait, il a fallu, même si on a un champion olympique en face de soi qui a des jambes monstrueuses de puissance, et ben pour le hand, il fallait qu'il apprenne des nouvelles compétences, des nouvelles capacités. Et c'est là où on peut se dire que finalement, c'est pas parce qu'il était champion comme ça, qu'il avait des jambes super puissantes, qu'il était forcément des jambes adaptées au hand et qu'il a fallu faire des entraînements de hand spécifiques.
Alors, moi, juste pour répondre à la question, en fait, je pense que c'est très compliqué de répondre parce que il nous manque une donnée et la question, c'est. Enfin, la donnée qui nous manque, c'est le ressenti, en fait. Mmh. C'est. Donc effectivement, moi j'invite vraiment, voilà, on est prêt à y répondre dans d'autres contextes et voilà, il n'y a pas de souci quoi. Mais il nous manque des informations qui ne nous permettent pas de répondre à cette question. En fait.
Et c'est
tu
pour ça que tu répondras
dire?
À Marie-Laura en privé.
Il faut qu'elle me contacte directement.
Voilà, elle fait des et c'est drôle parce qu'elle met, elle a mis certains épisodes en fait, elle les conseille de les écouter à ses étudiants. Et donc voilà, et c'est pour ça et pourquoi je le dis parce que en fait
parce
on cherche toujours à ouais et elle enseigne et tout et on cherche toujours à développer la visibilité du podcast et c'est vrai qu'il y a des épisodes je sais qui sont écoutés par des étudiants en diététique pour sport et nutrition, des étudiants coach etc. Et elle est gynécologie hein, dans ce domaine-là, mais en fait dans certains sujets elle a donné en fait des épisodes à écouter à ses étudiants qui ont été surpris, mais dans lequel en fait c'est aussi pour nous des vecteurs en fait on en parlait, on disait bah tiens il y a des épisodes qui peuvent être écoutés par des personnes on n'a pas idée, mais aussi par des étudiants qui apprennent des trucs par des choses comme ça. Donc si vous avez des gens qui peuvent être intéressés par les épisodes, passez-leur les épisodes.
Ouais, alors moi je le transmets pas mal aux étudiants STAPS et je sais qu'on a des étudiants STAPS qui nous écoutent et je pense qu'effectivement il y a des choses, notamment l'épisode sur les apprentissages moteurs qui a été écouté par des gens qui préparent l'agrégation de PS. Donc je pense que c'est assez transversal, effectivement, ça c'est plutôt cool.
Voilà, et ben écoute, on va conclure là-dessus. Donc passez le message à votre voisin, transférez-leur les liens des épisodes,
ouais.
etc. Je vais le dire et je le répète, hein, l'épisode sur le plan marathon fait partie des épisodes les plus écoutés. Et alors vraiment, quand j'ai vraiment au-dessus, ça montre aussi que hey, on est quand même dans les plans en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont focalisés sur ces préparations marathon, sur marathon de printemps, puis les marathons qui vont arriver. Mais après, c'est un peu de saison, hein, c'est un peu logique. Hein, il y a ces grands événements qui sont comme ça. Mais ça n'empêche qu'on pourra reparler un jour du marathon, mais pas maintenant. Hein. Enfin, quoique, on a encore quelques épisodes un petit peu. Ce qui
on pourrait faire un épisode juste avant le marathon, en fait. Sur les derniers petits conseils, je pense, moi, je pense que la semaine d'avant le marathon, elle est ultra importante. Quoi. Il y a plein de trucs à penser et on pourrait faire un épisode.
Et ben, tu sais ce que je ferais ? Je ferais un appel à questions spécifique et comme ça on prendra une série de questions spécifiques parce que là je suis sûr en plus dans les derniers moments là quand ça va commencer à avoir les gens qui jouent des claquettes en disant oh là là est-ce que j'ai bien tout préparé, est-ce que c'est toujours les petits trucs. Moi la veille de mon marathon je me demandais quelle chaussette j'allais mettre, alors franchement chacun a ses petites questions sur ce.
C'est important, tu en parlais avec les chaussettes à doigts de pied pour les ampoules et tout, c'est tellement important.
Et tu sais quoi, il y en a qui les ont achetées. Il y a juste un débat et je sais pas si toi tu pourras me le débat, on fera un débat un jour peut-être sur le beurre, entre beurre salé et beurre doux. Il y a un gros débat sur mon compte Instagram.
C'est vrai, t'as vraiment un débat.
Mais en fait, j'ai mis une photo de beurre doux sur mon compte et tous mes Bretons qui me suivent, ils m'ont dit Mais on t'aimait bien, j'arrête d'écouter le podcast. Et pourtant, t'avais l'air un gars sympa et tout. Alors après, j'ai remis une plaquette de beurre salé. On m'a dit ah, t'es un gars bien et toi. Et puis quelqu'un m'a dit non, mais attends, moi je suis que beurre doux. Alors voilà, il y a un grand truc, mais Alors, c'est pas le débat là-dessus.
Mais
par contre, le débat, il sera intéressant. C'est de savoir si certains aliments qu'on peut prendre, tu vois, un jour, on se mettra. Mais si certains aliments qu'on peut prendre, genre les os, tu vois, est-ce que les os, c'est de récupération? Tu en as pas trop parlé. Certains aliments qui sont plus anecdotes quand on dépense beaucoup et qu'on perd beaucoup de minéraux, etc. Est-ce qu'on a un moyen de les compenser par certains aliments qu'on va plutôt focaliser? Ça sera un vrai sujet, tu vois, un jour qu'on pourrait...
Mais c'est un très bon exemple, l'histoire du beurre. Ça résume nos deux épisodes. Attends, tu vas voir, je vais te résumer nos deux épisodes avec
le beurre.
Mais
moi, j'aime pas, tu vois, je sale jamais mes plats, mais le beurre salé permet de prendre du sel.
Vas-y. Moi, je dis que de toute façon, tout est une question de complémentarité. Je l'ai dit depuis le début. Donc, le beurre doux est complémentaire au beurre salé. Donc, les deux sont nécessaires. Donc, t'achètes les deux, tu mets les deux dans ton frigo et t'arrêtes de nous enquiquiner, quoi.
Voilà. Et ben, la guerre entre les Bretons et le reste de la France est terminée.
Exactement.
Merci Laure pour ta diplomatie qui a permis à tout le monde de régler ce truc-là. Et quelqu'un m'a même dit, et je le rigole parce que quelqu'un m'a dit, mais attends, les Bretons, ils osent vendre du beurre doux au reste de la France. J'ai rigolé.
C'est vrai.
Et je dis oui. Et même chez moi, en fait, je savais même pas qu'ils faisaient du beurre salé, eux, parce que dans mon magasin, je ne trouve que le beurre doux. Et ça m'a vraiment fait rire. Et c'est là où, tu sais, on parle de perspective sur le monde, etc. C'est vraiment un truc qui était drôle.
C'est chouette.
Bref, sur ce, écoute, Laure, je te souhaite une belle,
belle
journée.
Toi aussi.
Une belle semaine. On se retrouve très bientôt
pour faire un autre
épisode. Très vite. N'hésitez pas à continuer à envoyer des questions. Et pendant qu'on enregistre, en plus, j'ai vu mon Instagram, c'est rempli de quelques questions avec des gens qui veulent acheter le débat. Tu sais, on me demande souvent s'il faut acheter des Altra, des choses comme ça et tout. Je précise d'ailleurs, parce que tu parlais de minimaliste tout à l'heure, chez Altra, j'ai fait l'expérience l'autre jour, j'ai pris une paire de trails, je les ai trouvées très très molles, très maximalistes dans l'appui. Elles sont bien drop zéro, mais très très moelleuses. Et j'étais tellement surpris. Je dis, qu'est-ce qu'elles sont moelleuses, ces chaussures?
T'as plus l'habitude.
Ah ouais, j'ai plus du tout l'habitude. Donc, comme quoi, c'est pas une question de drop. L'amorti n'est pas qu'une question de drop. Il y a d'autres éléments qui sont là-dedans. Et on pourra aborder là-dessus. Donc, n'hésite pas à envoyer les questions dans tous les sens. Je mets un lien dans les notes de l'épisode pour retrouver, bien entendu, ou retrouver Laure, ou me retrouver moi, si vous avez des conseils, des questions, etc. Et puis, bien sûr, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec Laure pour une nouvelle Minute Perf. C'est quoi le sujet? La semaine prochaine, prof? Tu te rappelles?
Non. Je sais qu'il y a un truc, on va te parler d'une journée type, mais il y a un autre truc avant. Tu t'en souviens, toi?
Non, je ne me rappelle pas. C'est pour ça.
Mais si, en fait... c'est comment progresser quand on est débutant dans un sport.
Mais on avait commencé à en parler, et puis on avait un autre élément à mettre dedans. Mais bref, effectivement. Et je vous rappelle que c'est vraiment mon grand sujet en ce moment. C'est ce que je dis, je suis totalement débutant en vélo. C'est pour ça que je suis vraiment impatient de savoir comment je peux progresser sur mon vélo pour me sentir plus à l'aise et me lancer mon gravelman, la préparation de mon gravelman. Je disais dans l'épisode, dernier épisode, je disais, je suis incapable de savoir quel plan d'entraînement je dois suivre pour préparer un tel truc de vélo. Est-ce que je dois rouler? Est-ce que je dois faire de l'aérobie? Est-ce que je dois faire de la puissance de temps en temps, etc.? C'est un vrai sujet, c'est un vrai truc. Et c'est vrai que c'est pas parce que je sais me faire des plans d'entraînement maintenant pour la course que je sais le faire pour le vélo. Et donc, c'est un vrai sujet, tu vois. Et c'est pour ça que c'était le genre de sujet qu'on abordait. Bien, bref, là-dessus, je clôture cette séance. On avait dit qu'on ferait court. Et bien, on a fait plus long que la dernière fois.
Nickel.
Nickel, voilà, comme quoi on tient toujours nos engagements. Oui. Je rappelle que la Minute Perf s'appelle la Minute parce que ça va être des épisodes courts, ça dure bien plus d'une minute, mais je pense qu'on apprend quand même beaucoup de choses et je te remercie beaucoup Laure en tout cas pour tous les partages, la bonne humeur, le sourire, toutes les anecdotes, etc. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des questions et suivre les liens.
C'est très partagé Bertrand, et tu le sais.
Écoute, sur ce, ciao ciao.
À bientôt.
Voilà, cette Minute Perf est terminée. Si vous souhaitez aller plus loin et avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à suivre les liens pour nous contacter et vous pouvez aussi venir poser les questions dans le Hamsters Running Club. A tout de suite.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.